Bien. Putain, t'aurais dû l'écrire plus petit. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose de débuter cette session. C'est pas l'heure de l'apéritif, mais on dit que ça fait venir les absents. Donc, j'ai eu quelques messages de celles et ceux qui vont arriver dans la matinée. Donc, bienvenue à l'espace Mendès France, à cette réunion que j'ai coutume d'appeler laboratoire de créativité et territoire. Donc, c'est un rendez-vous annuel que nous menons depuis déjà de nombreuses années. Je vais vous en dire un mot là sur la question de créativité et territoire par rapport au lieu où vous êtes, ou la maison qui vous accueille aujourd'hui, vous expliquer quel est le sens de notre démarche. Donc, je voulais remercier Jackie Deniol, que vous connaissez toutes et tous, et Céline Nolot, d'avoir permis l'organisation de ces journées. Donc, merci à tous les deux. Et merci au service communication, Justine, d'être présent. Et sachez que ces moments, pour nous, sont importants. Alors, puisque les échanges seront enregistrés et qu'on en fera notre miel, j'imagine. Alors, sachez que dans cette salle, nous recevons chaque année une petite centaine d'intervenants du monde scientifique pour organiser journées d'études, rencontres, débats, tables rondes, qui en fait sont pour notre centre de culture scientifique, technique et industrielle, encore une fois un sigle inventé dans les années 80 par quelques technocrates éclairés. C'est une occasion pour nous d'essayer de voir ce que nous dit ou ce que nous promettent les sciences. Ce que nous promettent les sciences pour les années à venir. Donc, discuter avec vous, c'est aussi préparer le programme de cette maison que nous proposons à nos concitoyens. Moi, quand je suis arrivé dans cette maison, il venait 14 000 personnes par an dans ces murs. Maintenant, entre ce qui se passe dans les murs et ce qui se passe à l'extérieur, on est à plus de 170 000 personnes. Tout ça en 25 ans. Alors, ce n'est pas parce qu'on est très bon, c'est que je pense que le programme qui a été concocté ici depuis un peu plus d'une vingtaine d'années correspond à un vrai besoin. Le premier, c'est d'éclairer sur ce qui se fabrique dans les laboratoires. On parle de science, on parle de technologie, on parle d'application, de recherche et développement, mais aussi et surtout, et j'en discutais à l'instant, nous avons choisi délibérément à contre-courant, contre-vent, marée et autres. Comment dire, remarque acerbe, dès 1992, de doter cet établissement d'un pôle d'histoire des sciences, qui rapidement est devenu un pôle d'histoire des sciences de l'homme et de la société, et d'un pôle sciences et société tout court. Donc, dès 1992, nous avons, contrairement à nos collègues de France de l'époque, et a fortiori de la Cité des sciences, souhaité que les chercheurs des sciences de l'homme et de la société soient partie prenante de nos interrogations. Deuxième aspect, cette maison a dès 1992 aussi voulu inscrire dans son plan de développement une stratégie éditoriale. Nous avons la chance, et nous sommes les seuls en France à avoir ça, d'avoir une revue qui s'appelle L'Actualité. Alors, désormais Nouvelle-Aquitaine, puisque nous avons changé de région, le rédacteur en chef, Jean-Luc Taradillos, est parmi nous. Et cette revue, qui est une revue papier de grande qualité en termes de rédactionnel, d'iconographie, de recherche diverses et variées avec celles et ceux qui nous illustrent la démarche, cette revue passée en ligne nous a permis aussi de mobiliser les discours des penseurs en sciences de l'homme et de la société, parce que nous en avons besoin. Alors, on a la chance d'avoir quelques grands parrains, hein. On a eu dans nos pages Alberto Manguel, qui est reparti malheureusement en Amérique du Sud, mais qui, en tant qu'écrivain, nous a éclairé sur la place des sciences dans nos sociétés. Nous avons la chance d'être régulièrement suivis, il est souvent dans ces murs, par Edgar Morin, qui nous aide à éclairer cette relation essentielle entre les besoins de nos concitoyens et les progrès scientifiques. Dernier point par rapport à la stratégie de la maison, dès 1995, nous avons souhaité que les territoires soient au cœur de nos préoccupations, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, mais surtout des bonnes. Et très rapidement, la question de l'innovation dans les territoires et les fondements ou les racines de l'innovation, c'est-à-dire la capacité individuelle et collective à créer, à imaginer, à se projeter dans l'avenir, a été au cœur de nos débats. Alors, c'est dans ce cadre-là que Créativité et Territoire est venu compléter un groupe qui a commencé à travailler dès 2002 ici, qui s'appelle Science, Innovation et Territoire. Parce qu'à l'évidence, quand nous allons dans les communes de... Alors, notre territoire de référence, c'est l'ex-Poitou-Charentes encore, quoique on a commencé à aller sur le reste du territoire de Nouvelle-Aquitaine. À l'évidence, quand on rencontre les acteurs locaux, il y a une demande sur cette question de l'innovation, du progrès et de la place des sciences dans tout ça. Alors, c'est une demande sûrement d'ordre politique, épistémologique, philosophique, même si les gens ne nous le disent pas comme ça. Mais c'est aussi une demande qui correspond à une réalité extrêmement tangible de ce qui se passe sur nos territoires. Donc, autour de Jean-Pierre Michel, Pierre Perrault et Jackie Deniol, nous avons monté une espèce de réflexion permanente qui nous permet aussi d'assurer un contact. À midi, je vais voir le maire de Saintes et ses élus. Ils sont en train de réfléchir à un truc à la mode, c'est les tiers-lieux. Ils sont en train de réfléchir à un tiers-lieu. En fait, c'est une friche industrielle qui est sur les bords de ce beau fleuve Charente. Et plutôt que de faire un énième Fab Lab, ils se sont posé la question de savoir si, par rapport au développement de leur territoire, nous pouvions les aider à mobiliser des compétences en techno sûrement, mais aussi en sciences de l'homme et de la société, et en particulier sur la question des, on appelle ça des décrocheurs dans le monde de l'éducation, et les usages et les services que pouvait rendre cette réhabilitation. Donc on est loin des tiers-lieux, comme ça, un peu à la mode, qui sont financés automatiquement et qui ferment 2 ans et demi après. Une réflexion de fond, pour nous aider à cette réflexion de fond, on ne peut avoir qu'un dialogue avec nos amis de la Maison des sciences de l'homme et de la société. Donc pour vous dire qu'on a une demande de plus en plus tangible des élus locaux pour que la culture scientifique soit un appui à leur réflexion en termes de politique publique. Je vous rappelle que les élus, ils ont l'habitude de payer grassement des consultants. Ils oublient souvent qu'à 50 bornes de chez eux, ils ont un machin qu'on appelle une université. Et qu'au sein de l'université, d'ailleurs, Grand Poitiers a fait la même chose il y a très peu de temps. Son schéma local d'enseignement supérieur et de recherche a été concocté par un cabinet de consultants fort honorable d'ailleurs. Et vous avez dans le même temps la fac de Sciences Éco qui a fait éditer ses travaux par la Caisse des dépôts, travaux qui sont exactement dans la veine de ce qu'a fait le consultant, et pour exactement 3 fois moins, on aurait fait la même chose. Sûrement en mieux, puisque ça aurait été fait par des locaux connaissant leur territoire. Alors je ferme la parenthèse, mais pour dire que ce tropisme, il est partout. Alors nous, notre maison a pris l'habitude régulièrement de dialoguer avec les élus locaux et de leur proposer des contributions scientifiques, techniques et intellectuelles directement issues de nos réseaux. Donc Créativité Territoire, ce que vous faites ce matin, c'est pour nous un laboratoire des sujets tels qu'ils sont en train de se faire concrètement sur le territoire, et nous permet également de nous projeter dans l'avenir pour trouver de nouvelles façons de présenter à nos concitoyens les choses. Alors vous voyez, cette journée-là, on va discuter un certain nombre de choses. Et si je regarde ce qui s'est passé ce week-end, dans nos murs, mais aussi hors nos murs, avec la fête de la science, on voit bien qu'on est en train de recueillir les fruits de 20 ans de travail. Dans cet établissement, il est passé plus de 7000 personnes en 9 jours. Les personnes en question, le plus petit, je ne parle pas de ceux qui étaient en poussette, hein, le plus petit devait avoir 4 ans et le plus ancien avait 91 ans. Il était dans cette salle un soir de débat pour vous dire que le public est populaire. Présenter dans nos murs des travaux, des réflexions que vous menez, vous, sur vos territoires, ou aller sur vos territoires, pour moi, c'est la même chose. Là, simplement, il y a une infrastructure qui a été construite par les élus locaux. Pour moi, c'est la même chose. Donc, ça doit aller dans les deux sens. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer les conditions d'une égalité de nos concitoyens face à une information qui leur permette de travailler leur vie au quotidien dans leur commune, dans leur territoire. C'est un travail de longue haleine. Quand on présente une conférence ici d'histoire des sciences sur les rapports entre le médecin et le patient, et puis que quelque part dans le nord du département, on a une anthropologue qui vient parler de médecine, médecine occidentale, médecine chinoise ou autre. Pour moi, c'est, et je remercie ceux qui ont fait ça, pour moi, c'est une façon de mettre sur la place publique, à Poitiers, dans un centre urbain, une ville universitaire, la même chose qu'à Velèche, nos amis de Thouars ont fait, à partir de Waron, un magnifique parcours autour des mégalithes. On doit créer les conditions d'une égalité d'accès non seulement à la connaissance, Internet le permet, mais surtout d'un vrai rapport entre ceux qui fabriquent cette connaissance, ceux qui la filment, ceux qui la diffusent et nos concitoyens, parce que la vraie rupture en ce moment, c'est là où elle est. Donc nous, on œuvre modestement dans notre aire de référence avec beaucoup d'amis, un réseau important, pour faire en sorte que cette question de la présence en territoire de la connaissance, la capacité des individus qui sont potentiellement créatifs mais qui ne le sont pas forcément de fait, de se dire pourquoi pas moi et pourquoi pas quelque chose qui est issu de moi, bref. Donc dans une société qui se cherche en termes de confiance, notre maison, avec l'aide des universitaires, moi je salue la présence de Majdi Kouder qui a été pendant 10 ans un grand directeur de l'UIT de Poitiers, qui est membre du bureau de Mendès France, qui nous aide à concocter nos idées sur l'innovation. Je le remercie à travers lui. C'est pratiquement 300 chercheurs chaque année. C'est assez unique en France, qui sont physiquement présents à nos côtés pour dialoguer avec nos concitoyens. Ça donne une dimension humaine à cette science en train de se faire, qui est parfois un peu loin de tout le monde. Alors j'étais un petit peu long, mais simplement pour vous dire qu'il n'y a rien d'artificiel au fait de se retrouver dans une situation de laboratoire d'idées un matin et puis pendant 2 jours et demi à l'espace Mendès France. Pour nous, c'est fondamental pour créer les conditions d'une culture scientifique qui se renouvelle. Donc c'est encore une fois dans ce sens-là que je remercie Jackie et puis toute l'équipe, parce qu'on a fait vraiment des découvertes depuis une dizaine d'années. Et quand j'en parle à celles et ceux qui viennent nous visiter, ces découvertes, elles illustrent parfaitement cette unicité. Il n'y a pas plus ou moins intelligent, plus ou moins incapable de comprendre ici ou ailleurs. Hein, tout le monde est sur un pied d'égalité à un moment ou un autre dans ce dialogue avec la communauté des sachants, hein, qui sont bien contents de dialoguer ici. Voilà, donc Jackie, je vais te laisser la parole pour présenter le programme. Encore une fois, bienvenue. Vous aurez le temps d'échange. Les choses sont enregistrées, seront remises en perspective pour permettre à chacun d'avancer pour plus tard. Bah, tu peux t'asseoir, Ludovic, il n'y a pas de problème. Vas-y, Jackie.
Merci Didier, bonjour à toutes et à tous, et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le programme, vous l'avez, donc vous voyez quelle est l'articulation ce matin. Simplement, juste peut-être pour introduire l'intervention de monsieur Jean-Paul Demoule, que je remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que dans le domaine de la créativité, des coachs en créativité, de tous ces domaines, parfois on a tendance à un peu oublier la longue période, et donc on a fait appel à quelqu'un qui va nous parler justement de cette longue période. Et en quoi peut-être ça peut nourrir la créativité dans les territoires, ne serait-ce que par la présence dans ces territoires d'un certain nombre de centres d'archéologie ouverts au public, etc. Et dans l'ex-région Poitou-Charentes et dans la nouvelle région Aquitaine, ces lieux sont fort nombreux. Donc, Monsieur Demoule, si vous voulez bien, vous allez avoir donc la charge d'introduire ces journées après l'introduction de Didier, que je remercie aussi de sa présence ce matin.
Excusez-moi, je suis Macintosh et pas PC, donc j'ai eu du mal. Voilà, très bien. Bien, eh bien écoutez, je remercie les organisateurs qui m'ont demandé de venir parler du thème justement du progrès, de l'innovation et de la tradition dans une perspective historique, un peu élargie. Moi-même, je suis spécialiste plutôt de ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et il y a à peu près 10 000 ans dans différentes régions du monde et qui a effectivement tout changé dans le destin des sociétés humaines. Donc l'archéologie, souvent, c'est pour le grand public, c'est ça, c'est les chercheurs de trésors. Et effectivement, l'archéologie trouve des trésors. Et je vais essayer de vous montrer en quoi l'archéologie sert aussi à réfléchir sur les sociétés au-delà du plaisir de la découverte. Alors, cette idée de progrès, d'innovation, elle est propre à notre société actuelle, encore qu'elle ne soit pas toujours complètement partagée. Il y a des tas d'autres sociétés qui ont conçu une autre manière de penser la marche du temps. Donc il y a des sociétés où les temps sont cycliques, là, comme dans les exemples que je donne, chez les Mayas ou dans le bouddhisme. Vous avez des cycles et ça dure indéfiniment. Et même chez nos amis astrophysiciens, l'une des hypothèses sur le monde, c'est qu'actuellement, on a eu le Big Bang et que l'univers est en expansion, mais qu'à un moment, il va repartir dans l'autre sens, et le Big Crunch, et puis ça va durer comme ça éternellement, et c'est peut-être arrivé déjà un certain nombre de fois. Il y a également l'idée que régulièrement les sociétés s'effondrent, hein, toutes les sociétés sont mortelles, disait Paul Valéry, et c'est quelque chose qui a été remis à la mode depuis quelques années avec nos angoisses écologiques. Il y a l'idée aussi d'une chute après un paradis perdu, qui est donc constitutif des religions dites du livre ou abrahamiques, mais avec la variante qu'un jour tout ira mieux, qui caractérise ces trois mêmes religions. Il y a aussi l'idée d'une décadence, on s'était mieux avant, que vous avez chez les Grecs. Mais nous, pendant longtemps, on était élevés dans l'idée du progrès continu, de l'accumulation des savoirs scientifiques. Donc le bouddhisme, pour illustrer mon propos, les Mayas, vous vous souvenez, on l'a déjà oublié, mais en 2012, c'était la fin du monde, parce qu'une mauvaise lecture d'un des calendriers mayas disait que ça s'arrêtait le 21 décembre 2012. En fait, c'est simplement qu'effectivement, chez les Mayas, il y a un temps cyclique, donc il y a des cycles qui se terminent et d'autres qui vont recommencer. Chez les Grecs, il y a cette idée de la décadence qui nous ont peut-être en partie livré. Chez Hésiode, il y a 5 âges successifs, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge du bronze, l'âge des héros, et puis on est actuellement dans l'âge de fer, et les choses vont plutôt moins bien, c'est plus violent qu'avant, encore qu'il y ait des débats sur l'interprétation d'Hésiode. Et Platon a cette même vue un peu pessimiste d'une partie de l'aristocratie athénienne, puisque vous savez que la démocratie athénienne, qui est donnée en exemple, excluait 90% de la population du fonctionnement démocratique, excluait les femmes, les esclaves et les métèques. Donc les religions du livre, avec cette idée de la Bible, du paradis terrestre, puis de la chute, mais peut-être de la rédemption un jour, et les différents avatars du judaïsme avec le christianisme et l'islam. Et cette idée donc tout allait bien, mais... Et à chaque fois, c'est une femme, comme vous l'avez remarqué, soit Ève, soit chez les Grecs, c'est Pandore, qui va faire qu'on est exclu du paradis terrestre et de l'âge d'or. Cette idée aussi que, par rapport au thème de l'innovation, que le travail, effectivement, est pénible. Tu travailleras le sol à la sueur de ton front, et que c'est lié effectivement à cette exclusion du paradis terrestre. Ça, c'est chez dans le judaïsme et ses suites, et chez les Grecs, il n'y avait que des hommes mâles au début. Ils réussissent à voler le feu aux dieux grâce à Prométhée, et donc pour les punir, Zeus fait fabriquer une créature infernale, la femme, qui devait garder la jarre avec tous les mots MAX du monde et qui les laisse partir. Donc c'est ça l'âge d'or tel qu'il pouvait être vu à la Renaissance, un peu avant, un peu après. Vous voyez qu'on s'ébattait librement dans le paradis terrestre et apparemment sans vêtements. C'est une idée qui a été reprise aussi, y compris en archéologie, comme on trouve en général au paléolithique et au néolithique essentiellement des figurines féminines. Certains archéologues ou historiens ou érudits, dès le 19e siècle, en avaient conclu qu'au début, on avait affaire à des sociétés matriarcales, c'est-à-dire où les femmes avaient le pouvoir politique à l'exclusion des hommes, et qu'ensuite, les hommes s'en sont emparés, et les ennuis ont commencé à ce moment-là. C'était beaucoup vulgarisé par une archéologue américaine qui s'appelle Maria Gimbutas, et dont un des livres ici a été traduit en français par une maison d'édition féministe il n'y a pas très longtemps, qui développe effectivement cette thèse en essayant de l'appuyer d'un point de vue historique. Simplement, on connaît aucune société humaine historique ou actuelle où les femmes aient le pouvoir politique à l'exclusion des hommes. Elles peuvent être plus ou moins dominées, mais on n'a pas d'exemple d'une société matriarcale au sens strict. En revanche, on a beaucoup de mythologies où au début le pouvoir est aux femmes, mais elles s'en servent tellement mal que les hommes sont obligés de leur reprendre. C'est existe chez beaucoup de mythes traditionnels en Amérique du Sud, en Nouvelle-Guinée, etc. Et c'est la même chose que ce qu'on vient de voir avec Ève ou avec Pandore. Alors, le fait qu'on représente essentiellement des femmes, c'est une indication qu'elles ont le pouvoir, c'est l'indication inverse, au contraire, qu'elles apparaissent comme objet sexuel ou objet dominé. Si vous regardez les affiches dans la rue ou feuilletez un magazine, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes en général, mais justement comme objet de consommation ou à faire consommer. Donc cette idée, par ailleurs, de l'effondrement, c'était très popularisé par le best-seller du biologiste Jared Diamond, la manière dont les sociétés disparaissent, en prenant des exemples célèbres comme l'île de Pâques. En revanche, pendant longtemps, comme je disais en introduction, en Occident, en Europe, on avait cette idée du progrès continu, idée qui accompagne la révolution industrielle. Et ça commence avec Condorcet, 1794, qui est paru après sa mort, puisqu'il a été guillotiné, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, où il y a une dizaine d'étapes, de grandes étapes que doivent suivre toutes les sociétés humaines des origines à nos jours, avec à la fois les progrès techniques et en même temps les progrès institutionnels, puisque le couronnement va être la République pour Condorcet, et puis les inventions donc successives qui vont jalonner l'histoire de l'humanité. Donc c'est le début de ce qu'on appelle classiquement l'évolutionnisme, qui va donc durer jusqu'à maintenant, pendant deux siècles, et avec l'idée que le plus bel achèvement, c'est forcément nos sociétés, et que les autres sociétés se placent à un stade plus ou moins avancé. Cette idée, elle est en parallèle aussi chez les Anglais avec Adam Smith, donc il est le fondateur, le théoricien du libéralisme économique qui nous gouverne actuellement, et qui fait que le progrès est issu, lui, de la compétition entre les producteurs de biens. chaque producteur s'efforçant de produire le mieux et le moins cher, puisque s'il produit mal et cher, il ne sera pas acheté. Et c'est comme ça que, par une sorte de main invisible, dit Adam Smith, on doit cheminer dans le progrès. La théorie suppose que tout le monde ait la même information, qu'il n'y a pas de manipulation de l'information, ce qui évidemment n'est pas le cas, comme l'ont démontré un certain nombre d'économistes dits hétérodoxes. Alors, cette idée du progrès, on la retrouve chez l'idéologue américain Francis Fukuyama. C'est celui, si vous en souvenez, qui, au moment de la chute du mur de Berlin, a pronostiqué ce qu'il appelle la fin de l'histoire, « the end of history ». Puisque après la fin du communisme, eh bien, ça devait être le libéralisme économique et la démocratie représentative parlementaire qui devait régner indéfiniment sur le monde. Alors, comme vous savez, c'est pas ce qui est arrivé, mais ça l'empêche pas de continuer à vendre des livres et à faire partout des conférences. Rousseau faisait partie, au contraire, de la tendance inverse, qui n'était pas la compétition, mais au contraire le contrat qui aurait dû faire fonctionner la société. Pour l'instant, c'est plutôt lui qui a perdu. Mais comme justement l'histoire est longue, on n'est pas certain que ça soit définitif. Alors, pendant tout le 19e siècle, il y a eu tous ces grands romans des origines. C'est pas la peine de les lire tous ou de retenir ces noms, mais c'est juste pour vous montrer que ça a caractérisé le 19e siècle, ces des grandes histoires de la civilisation, avec certains qui étaient juste des érudits, mais certains étaient des archéologues, comme John Lubbock, ici, qui a défini justement les termes de paléolithique, néolithique, etc. Et ça dure jusqu'à Sigmund Freud, dans Totem et Tabou, qui va justement essayer de retracer ces hypothèses sur la nature des sociétés. Alors, cet élan-là, il va être stoppé pendant plusieurs décennies par le fonctionnalisme et le structuralisme, c'est-à-dire qu'on cesse de regarder les sociétés dans la durée, mais avec justement les études de terrain dans le domaine ethnologique, on va s'intéresser à la synchronie et plus à la diachronie, c'est-à-dire aux sociétés telles qu'elles fonctionnent à un moment donné du temps. Donc c'est ça qui va dominer un peu la réflexion sur les sociétés pendant longtemps. Et c'est seulement à la fin du XXe siècle que de nouveau, avec d'autres chercheurs, évidemment, comme Maurice Godelier, Alain Testard, Pierre Lemonnier, il y aurait de nouveau la possibilité d'une réflexion évolutionniste. Donc, comme je vous le disais, pendant longtemps, le progrès paraissait aller de soi. Le PIB, si on prend les 30 glorieux, justement, le PIB augmente indéfiniment. Et ça, c'est la courbe des crédits militaires entre 1960 et 2015, qui vont, eux, décroître régulièrement, ce qui, en principe, est plutôt bon signe. Et donc, le PIB mondial, ici, vous l'avez depuis 2000 ans, et avec à chaque fois, donc, par grande période chronologique, et avec à chaque fois les grandes régions du monde, l'Afrique en bleu et au contraire les USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande en marron. Donc, et vous avez cette espèce, et même les pays les plus défavorisés comme l'Afrique vont commencer à décoller dans les années 2000. D'un point de vue préhistorique, on lit aussi les différentes espèces humaines successives avec un certain nombre de progrès techniques, avec par exemple ici le fait que, donc là vous avez le temps, ici la croissance, le volume du cerveau humain avec les différentes espèces humaines successives qui sont indiquées là. Et à gauche, donc la capacité crânienne, vous l'avez ici en même temps. Et ici, c'est la longueur d'outil qu'on peut faire avec un kilo de silex. Au tout début, vous avez un bloc de silex d'un kilo, vous allez le dégrossir et vous avez un outil avec quelques centimètres de tranchant, ce qu'on appelle les bifaces. Et puis, à la fin, donc ça c'est le nombre d'outils, donc un seul au début, et puis à la fin, avec toujours le même kilo de silex, vous allez produire 25 outils et à peu près 1 mètre... 100 cm de tranchant utile de vos 25 outils qui vont servir à couper, gratter, etc. Donc ça a été notamment travaillé par André Leroy-Gourhan dans les années 60-70 et ça a longtemps paru évident. Donc vous avez le volume crânien donc qui depuis les grands singes ou les premiers humains, l'Australopithèque, Lucie, etc., jusqu'à nous-mêmes, qui grossirait complètement, sans que ce soit si clair que ça, parce que Néandertal, que vous avez ici et là, a pratiquement la même capacité crânienne que nous, mais je vais y revenir. Du point de vue donc des inventions, si on le plaque sur cette évolution... Ici, vous avez le temps, donc moins 40 000, moins 20 000, zéro, etc. Les inventions ont suivi ce temps de développement extrêmement lent. Première découverte que vous avez donc à gauche, les premiers outils qui maintenant sont beaucoup plus anciens, qui remontent à 3,3 millions à peu près, le feu, les armes de jet. Et puis ça s'accélère progressivement et notamment dans la dernière période, celle dans laquelle nous vivons, qu'on appelle l'Holocène, qui a commencé il y a à peu près 12 000 ans et qui coïncide avec l'actuelle période interglaciaire, hein, à partir du moment où on s'est mis à vivre dans un climat tempéré où notamment on a inventé l'agriculture et l'élevage. Si on prolonge la courbe, là, c'est pris au hasard sur Internet, vous avez les 10 meilleures inventions du monde, les plus anciennes, commençant, vous voyez, avec, on remonte pas très loin avec l'imprimerie, ici, la boussole et le papier, et finissant. Évidemment, avec Internet. Cette idée de progrès, vous l'avez sur ce dessin incontournable qu'on a vu partout. Et j'y reviendrai à la fin, avec cette longue file et qui se termine toujours par le mâle blanc de type européen. Tout à la fin qui mène la marche. On sait maintenant que cette évolution humaine depuis 6 ou 7 millions d'années est au contraire non seulement buissonnante comme l'est ce schéma un peu plus exact effectivement que la longue file, mais qu'il y a eu sans arrêt des croisements entre ces branches et qu'il y a 40 000 ans, il y avait au moins 4 ou 5 espèces humaines qui coexistaient. Et que l'exception, c'est maintenant, on a réussi à éliminer toutes les autres espèces humaines, plus maintenant, on est passé aux autres espèces tout court. Donc on a tendance à représenter cette évolution humaine plus comme une série comme ça en parallèle, de bâtons ou comme un buissonnement avec des croisements et des recoupements. Donc si on reprend cette file des inventions, cette suite d'inventions, effectivement c'est avec Homo erectus qu'on a non pas les premiers outils, parce que les premiers outils c'est l'Australopithèque à 3,3 millions, mais donc on a les premiers outils inutilement symétriques, donc il y a à peu près 1 million d'années, et il y a 500 000 ans, toujours avec Homo erectus, qu'on a le premier signe de gestes complètement gratuits où il y a 500 000 ans un Homo erectus a sur un coquillage à Java tracé ses zigzags extrêmement réguliers. Après donc Erectus, vous avez Néandertal. Erectus est la première espèce qui sort d'Afrique, du moins une partie d'entre eux commence à sortir d'Afrique, et ceux qui sont en Europe vont très lentement évoluer, donc ils sortent d'Afrique il y a à peu près 2 millions d'années, donc ils continuent d'évoluer au rythme de la sélection naturelle, et il y a à peu près 300 000 ans émerge en Afrique Néandertal, émerge en Asie une espèce récemment découverte mais pas encore complètement bien connue qu'on appelle Denisova, et émerge en Afrique Homo sapiens, sont toujours aux alentours de 300 000 ans, c'est-à-dire nous-mêmes. Et ensuite ces trois espèces vont se mélanger parce que sapiens va à son tour sortir, une partie des sapiens vont sortir d'Afrique et vont se mélanger aux autres espèces. Néandertal lui-même trace aussi des signes sur la paroi d'une grotte à Gibraltar. Et il y a 3 ans, on a découvert dans la grotte de Bruniquel que des Néandertaliens, il y a 176 000 ans, ont cassé des stalactites et des stalagmites pour former des cercles extrêmement réguliers d'à peu près 3 mètres de diamètre, donc sans aucune utilité pratique, donc preuve aussi de complexité psychique, même si on ne peut pas en dire beaucoup plus. Alors l'invention, donc, comme je vous le disais, s'accélère à partir du néolithique, c'est-à-dire à partir de l'invention de l'agriculture et de l'élevage il y a 10-12 000 ans. L'agriculture et l'élevage va apparaître seulement dans quelques régions du monde. Les chasseurs-cueilleurs vont passer progressivement à l'agriculture. C'est ce qui est cerclé à chaque fois, là où vous avez un cercle. Et les couleurs sont les différentes zones climatiques. Le bleu, climat continental froid, le jaune désert, ici le climat atlantique, en rose le climat méditerranéen. Donc il y a une logique de climat, sachant en même temps que ce n'est pas dans toutes les zones où l'agriculture aurait pu être inventée qu'elle a été. Donc ça a été aussi des choix, entre guillemets, de certaines sociétés. Là en tout petit, mais pas visible ici parce que c'est dans un livre, mais ici vous avez le temps et puis le temps, et vous avez ici les différentes, la date de domestication des différents animaux, la date de domestication des différentes espèces végétales. Donc cette domestication va être fondamentale parce qu'elle permet à la fois la sédentarisation et, avec une nourriture sécurisée, elle commence à faire exploser la population humaine. En 10 000 ans, on va passer de peut-être plusieurs centaines de milliers, peut-être 1 million d'homo sapiens sur l'ensemble du globe à 7-8 milliards actuels, dont 1 milliard ne mange pas à sa faim et un autre milliard est en surpoids. Alors les inventions qui accompagnent le néolithique, c'est la hache polie, même si on a quelques cas en Australie chez des chasseurs-cueilleurs, à des dates très anciennes. Mais sinon, c'est la hache polie qui sert à travailler le bois pour la construction des maisons. C'est pour ça qu'on parlait jadis d'un âge de la pierre polie pour le néolithique, parce que c'est le moment où ça apparaît, à cause de la nécessité de déboiser et de construire. Mais évidemment, ce n'est qu'un épiphénomène. Ce qui est important, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc c'est la poterie qui accompagne aussi le néolithique, mais qui est plus liée à la sédentarité, puisqu'on a de la poterie chez des chasseurs-cueilleurs. plus anciennes sont vers moins 18 000 en Chine et vers moins 13 000, 14 000 au Japon chez des chasseurs-cueilleurs. Mais chez les agriculteurs, ça va évidemment se généraliser puisque la sédentarité devient générale. D'autres outils qui accompagnent le néolithique, donc les faucilles qui servent à couper les céréales, on insère des lames de silex dans des manches en bois ou en bois de cervidé, et on reconnaît facilement l'usure sur ces lames de silex. Voilà comment ça, à quoi ça ressemble en vrai il y a 8000 ans dans les Balkans. Vous avez les meules à broyer le grain qui vont être par va-et-vient. Il faut à peu près une heure pour avoir un kilo de farine. Et la meule circulaire n'apparaîtra que dans les derniers siècles avant notre ère. La charrue primitive, la rère, qui va donc permettre de travailler des sols plus lourds, que vous avez aussi ici représenté là, dans la vallée des merveilles avec le laboureur et puis les bœufs vus en haut. Donc également avec la charrue, vous avez la traction animale et l'invention de la roue qu'on a à la fois quand on retrouve des roues vraies et puis des maquettes de charrettes. C'est d'abord des roues à roues pleines, comme vous avez ici dans cette image prise dans le Pays basque. Et la roue à rayon, elle, qui est nécessaire pour les chars de guerre mobiles, n'apparaît que plus tard. Alors, la conséquence de ça, comme je vous l'ai dit, c'est la démographie. Vous avez là en vertical, ici, 1 million, 10 millions, et là, 10 milliards. La montée, donc, de la démographie humaine, l'agriculture et l'élevage se passant ici. Donc, voilà, en plus, c'est pas une échelle métrique, c'est logarithmique, et vous avez là... L'accélération continue est toujours non maîtrisée, même si le contrôle des naissances dans les sociétés, au moins les sociétés européennes, est visible dans les courbes à partir du XVIIIe siècle. Mais c'est évidemment insuffisant. Et même les sociétés qui ont essayé de réglementer, comme la Chine avec la politique de l'enfant unique, sont obligées de revenir en arrière, puisque après, ils vont évidemment avoir des problèmes pour le paiement des retraites. Avec ces masses humaines, on voit apparaître au cours du néolithique la guerre systématique. La violence entre humains et mâles a dû toujours exister, parce que on a des exemples aussi chez les chasseurs-cueilleurs, et on a la guerre est également attestée dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, notamment en Australie. Mais là, elle devient systématique. Les villages qui étaient ouverts se fortifient. Là, on est au néolithique, vers entre moins 3000 et moins 4000. Et on voit les représentations de chefs avec toutes ces armes, qui étaient un type de représentation complètement inexistant jusque-là. Et un exemple anecdotique, c'est le fameux Ötzi, l'homme retrouvé congelé dans les glaces en 91 à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, donc reconstitué ici à partir des insertions musculaires, et qui est mort, d'une part est mort d'une flèche plantée dans le dos, et d'autre part avait un poignard en silex sur lequel il y avait l'ADN de 4 ou 5 personnes différentes. Donc il illustre de manière précise cette définition, cette émergence continue de la guerre. Et avec l'invention du métal, on va avoir effectivement le début de la course aux armements, puisqu'il va y avoir à la fois l'épée qu'on ne pouvait pas fabriquer en silex, qui permet de tuer de plus loin, et puis symétriquement le casque, la cuirasse, les jambières, etc., les armes défensives. Ensuite, cette course aux armements, comme vous le savez, ne va plus cesser. Alors, vers moins 1000, C'est à partir de moins 3000, on voit apparaître les premiers états. C'est ce que vous avez en bleu, là, essentiellement en croissant fertile, Proche-Orient, Égypte et Chine. Mais vers moins 1000, on en est toujours là. C'est-à-dire que ces premiers états organisés qui vont générer de nouvelles inventions, puisqu'il faut gérer des masses humaines qui continuent à croître, vont rester quand même pendant très longtemps minoritaires. En jaune, sur cette carte, vous avez les chasseurs-cueilleurs. En violet, vous avez les nomades sédentaires. En vert, les agriculteurs, et en violet, les éleveurs nomades. Et puis dans la zone orange ici, on a ce qu'on appelle, les sociétés à chefferie, c'est-à-dire les sociétés déjà hiérarchisées, mais qui n'ont pas encore débouché sur l'État. Ces mouvements, ces problèmes de territoire vont engendrer des mouvements de population permanente. Donc, quand on s'angoisse sur les migrations actuelles, on voit que l'Europe a été constamment, ou n'importe quel autre coin du monde, des endroits de déplacement. Là, vous avez en rouge l'arrivée des Homo erectus, dont on parlait tout à l'heure. En bleu, les Homo sapiens. Mais après, vous avez les communautés grecques vers l'expansion des romaines de l'Empire romain, en noir les grandes migrations celtiques, en jaune, en vert clair les migrations germaniques, en violet les communautés juives qui dont certaines émigrent en Europe. Donc vous avez et là on s'arrête en plus 500. Donc ça a été sans arrêt des mouvements de déplacement de permanents de population. Alors je reviens brièvement à la problématique des effondrements, donc développée notamment par Diamond, avec cette idée des sociétés qui s'effondrent et les débats qu'il y a eu autour. Vous avez là, au contraire, deux livres non traduits en français, Questioning Collapse et Understanding Collapse, qui sont opposés aux thèses de Diamond et qui disent qu'est-ce qui s'effondre en réalité. Et souvent, ce qui s'effondre, c'est la couche supérieure de la population. Donc, on ne va plus trouver de palais royaux, de fresques, de masques en or. Mais les populations sont toujours là. Et ce qu'on va retrouver, c'est une réorganisation moins hiérarchisée de la société. Donc, par exemple, les grands dolmens bretons, ça dure un certain temps, quelques siècles. Et puis après, on trouve plus ces tombes monumentales réservées à quelques-uns, mais au contraire, des tombes collectives avec beaucoup plus de monde et des monuments moins imposants. La civilisation de l'Indus, dans l'actuel Pakistan, elle s'effondre vers moins 1700. Alors, on a pensé catastrophe naturelle, invasion venue du nord. Et ce qu'on retrouve maintenant après, c'est simplement une réorganisation et des villages, des communautés villageoises qui, finalement, sont beaucoup plus à même d'exploiter l'environnement sans avoir tout le poids surdimensionné de cette organisation villageoise. Vers moins 3000 au Pérou, on a parmi les plus anciennes villes du monde, avec des constructions monumentales, des pyramides, etc., à Caral. Ça dure quelques siècles et après, ça disparaît. La civilisation mycénienne, bien connue, donc vers moins 1500, le masque dit d'Agamemnon, les citadelle, ça disparaît. Donc après, les archéologues sont très déçus puisqu'il n'y a plus de masques en or ni de citadelle. Donc ils disent c'est les âges sombres. Mais est-ce que ces âges étaient sombres pour tout le monde ? Parce qu'il y a toujours des Grecs ensuite, et ils vivent simplement dans des villages et il n'y a plus de palais. Donc on dit que c'est la fin du monde, la civilisation s'est effondrée, mais c'est uniquement ce type-là d'organisation sociale qui s'effondre. Hein, quand on fait la liste des âges sombres, on va trouver qu'il y a moins de... Il y a effectivement moins de ceci et de cela, mais ça ne veut pas dire que tout s'est arrêté. Plus près d'ici, ce qu'on appelait les résidences princières celtiques, autour de moins 500 avant notre ère, vous avez des tombes effectivement absolument somptueuses et puis des débuts de villes fortifiées, comme ici, au-dessus de la tombe de Vix, avec des sortes de palais, des constructions monumentales qui font 20-30 mètres de longueur, et toute une organisation là, à trouver en prospection électromagnétique. Proto-urbain qui dure quelques générations et qui après s'effondre. Mais la population ne disparaît pas. Vous retrouvez de nouveau des petites nécropoles, des villages, mais qui sont beaucoup plus égalitaires. Même chose sur les Mayas. Le Maya collapse, c'était une des grandes questions longtemps de l'archéologie américaine. Il y a eu maintenant, on considère qu'il y a eu une surexploitation de l'environnement, des luttes entre les différentes cités mayas pour ceux qui auraient la plus grosse pyramide, etc. Installés dans les basses terres, c'est-à-dire les meilleures terres agricoles, repoussant les populations paysannes dans des terres moins propices. Et donc un système surdimensionné, là encore, extrêmement fragile et a suffi de moments de dégradation climatique pour que tout s'effondre. Mais est-ce que les Mayas ont disparu pour autant ? Là, c'est la péninsule du Yucatan. On parle toujours Maya. Il y a toujours plusieurs millions de gens qui parlent le Maya encore à l'heure actuelle. Donc, de quoi s'agit-il quand on parle d'effondrement ? Là, sur les bords du Mississippi... Jusqu'au XIVe siècle de notre ère, vous avez eu de véritables villes comme à Cahokia, ici, avec des pyramides en terre de 200 mètres de long et une ville dont on estime la population aux alentours de 20 000 habitants et qui s'est effondrée avant l'arrivée des Européens, mais qui, pendant un certain temps, a produit des objets de luxe que, effectivement, on ne va plus retrouver ensuite. Encore, donc au XIe siècle de notre ère, au Cambodge, là encore surdimensionné avec des systèmes hydrauliques complexes de prestige, des bassins qui pouvaient faire jusqu'à 5 km de long sur 1 km. Des constructions extrêmement complexes, mais en même temps extrêmement fragiles et qui va donc s'effondrer ensuite. L'Empire romain, que vous connaissez, qui dure 4 ou 5 siècles sur une distance gigantesque hein, de Londres à Damas, dont on a attribué l'effondrement aux invasions barbares, mais dont on considère maintenant que, d'une part, la moitié est de l'Empire va durer 1000 ans de plus avec l'Empire byzantin et que la moitié ouest n'a pas été détruite par des barbares assoiffés de sang, mais qu'il y a effectivement eu des apports de population, des fois de manière guerrière, mais qu'on a une restructuration de la population sans disparition culturelle, puisque je suis en train de parler une langue qui descend du latin à la suite de la conquête romaine et quelque chose donc à la suite d'un métissage culturel a donné autre chose sans que ce soit une catastrophe absolue. Et que c'est après coup qu'on a défini le Moyen-Âge comme une longue nuit et qu'on l'a appelé Moyen-Âge, donc entre deux âges, entre l'Antiquité et la Renaissance, Et si on renaît, c'est qu'on était mort. Et à la fois les archéologues et les historiens comme Bruno Dumézil ont complètement remis en cause cette vision du monde. Et on considère au contraire que le Moyen-Âge est l'époque d'une première révolution industrielle, l'exploitation de la houille, la domestication des fleuves, et qui a permis justement la révolution industrielle classique. Et on a remis effectivement complètement en cause cette vision du Moyen-Âge. Si bien que beaucoup de sociétés, si on prend l'exemple de l'Europe occidentale, si ici vous avez le temps et là en verticale la complexité sociale depuis chasseurs-cueilleurs jusqu'aux empires, eh bien l'histoire de l'Europe occidentale, elle est complètement en oscillation. Il y a certes du point de vue de la complexité sociale et des inventions qui vont avec une pente ascendante, mais avec très régulièrement ces moments de redescendre de la complexité sociale. Et si on prend l'histoire de l'Europe, donc le temps est de haut en bas, et là vous avez l'Europe du Sud, centrale, de l'Ouest et du Nord, en blanc, mais il faudrait rajouter cette humette à ce tableau, vous avez les sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais dont certaines ont survécu jusqu'au Lapon, enfin les SAM, on dit actuels, puis les premières sociétés d'agriculteurs, puis les sociétés en vert foncé dites à chefferie, donc où on va avoir jusqu'au Moyen-Âge des sociétés de ce type, des sociétés encore sans État, inégalitaires mais sans État. Puis en jaune, les premières sociétés à État, on a parlé de Mycène tout à l'heure, l'Empire romain ici, et l'Empire romain qui se continue en Empire byzantin et ottoman, et ici les États féodaux. Donc une mosaïque très imbriquée de sociétés, et ça serait la même chose si on prenait n'importe quel autre continent. Et donc ceci, c'est la carte des États, enfin des sociétés étatiques qui vont, et là donc de 2000 à moins 2000 à plus 1000, qui ne vont donc s'étendre que très progressivement et avec certains retours en arrière. Donc à partir de ça, il y a eu toute une série de débats qui commencent dans les années 70 avec Pierre Clastres, la société contre l'État, et qui dure toujours actuellement, sur cette idée que, en fait, il n'y a pas une espèce de progrès continu normal vers des sociétés de plus en plus complexes, mais que les sociétés traditionnelles mettaient au contraire en place des mécanismes de lutte contre un pouvoir excessif, donc contre l'État, la montée de l'État, où les chefs doivent redistribuer sans arrêt pour justifier leur pouvoir et être soutenus. Donc ça limite la montée de la richesse, et on les enterre souvent avec leur richesse, alors qu'un patron du CAC 40 ne va pas se faire enterrer avec sa Rolls et ses paquets d'actions. Donc c'était comme ça à cette époque-là. Le grand chef guerrier doit remettre sans arrêt en cause son pouvoir guerrier, ce qui finit par l'éliminer, etc. Et que donc l'anomalie, c'est que ces mécanismes de contre-pouvoir aient pu exploser. Et puis être détruit. Et on a les exemples historiques au-delà de l'archéologie, où régulièrement, quand un régime devient trop contraignant, eh bien, il va exploser. Et actuellement, ça a été développé par deux anthropologues anglo-saxons, David Graeber, anglais, qui a été traduit en français, justement, La dette 5000 ans d'histoire, ou Pour une anthropologie anarchiste, où il développe la façon dont effectivement cette résistance des sociétés à des sociétés étatiques trop contraignantes, et la manière dont l'État arrive à contourner, notamment tout ce qui va autour de la mythologie de la dette, et qui est très présent actuellement sur il faut rembourser la dette, et il faut réduire les dépenses publiques, etc. Et le deuxième anthropologue, ethnologue, c'est James Scott, qui a été traduit en partie en français l'art de ne pas être gouverné. Il montre comment toute une partie de l'Asie du Sud-Est, même s'il y a des découpages étatiques, en fait, on a affaire à des sociétés qui résistent, où l'État s'est jamais complètement imposé, où la domination, les arts de la résistance, et puis va paraître fin d'année ou début de l'année prochaine contre le grain sur justement la manière dont les États sont appuyés sur ces réalicultures intensives et dont je suis en train d'écrire la préface. Avant, vous aviez Marshall Salins qui avait plaidé que les seules sociétés d'abondance étaient les sociétés de chasseurs-cueilleurs parce que c'est un problème de coût-profit. Les chasseurs-cueilleurs travaillent 3-4 heures par jour pour leur nourriture, ce qui fait la semaine de 20 heures, alors que nous, on travaille tout le temps. Ça a été redéveloppé par l'auteur, l'historien israélien, auteur de best-seller Sapiens, Homo Deus, et puis le dernier qui vient de sortir, cette idée qu'effectivement les ennuis commencent avec l'agriculture. Alors on objecte à Salins que, évidemment, nos sociétés sont des sociétés de progrès technique très importants, que les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas la télévision ni Facebook. Mais pour Salins, c'est pas quantitatif, mais c'est relatif, l'abondance. C'est rapport coût-profit, effectivement, puisque notre niveau de vie actuel est bien supérieur à celui de Louis XIV, mais sera bien inférieur à celui de l'humanité dans 1000 ans ou 10 000 ans si l'humanité continue sur sa trajectoire. Donc ce qui compte, c'est uniquement l'abondance, c'est purement, effectivement, relatif. Et est-ce que progrès technique et progrès humain, c'est la même chose? Ça a été posé dès les années 50 par Lévi-Strauss. Vous savez qu'à côté du PIB, on a essayé d'opposer l'indice du bonheur brut, donc que vous pouvez trouver différents indices sur Internet. Donc, il va classer les sociétés en fonction d'un certain nombre de critères censés juger de leur bonheur, santé, culture, etc., temps libre. Et donc, vous avez les pays scandinaves tout en haut, là, avec 7,5 sur 10. Et puis, ça descend jusqu'en bas, où en bas, vous avez Burundi, Syrie, Tanzanie, Centrafrique. Donc, c'est un débat qui est effectivement posé sur qu'est-ce qu'on mesure, en fait. Et la même chose pour l'indice de démocratie qui a été fait par certaines ONG. Vous avez de nouveau la Norvège avec 9,93 et la France qui est quelque part ici, là, voilà, avec la Corée du Sud. Vous voyez que la France n'est que 22e avec 7,92 sur 10, de même que pour le bonheur. La France était quelque part par là. Ah, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, pas vraiment non plus très, très glorieux. Alors, est-ce qu'il fallait inventer l'agriculture? La question ne se pose pas puisqu'elle a été inventée. Mais ce qu'on peut voir au moins, c'est que si on regarde l'alimentation chez les chasseurs-cueilleurs par rapport à l'alimentation actuelle, vous avez ici les Européens aux palétiques supérieurs là, en marron et à côté ce que nous mangeons. Et ici, par rapport aux acides gras alimentaires saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, vous avez à gauche le paléolithique supérieur, au milieu en jaune-vert là, nous-mêmes, et puis en bleu ce que recommandent les diététiciens. C'était ce qu'on parle des fois dans le régime paléolithique, ce qui est un terme pas très adapté. Mais tout ça pour montrer que ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à la préhistoire, mais que simplement on était adapté à un certain type d'aliments. Que 10 000 ans d'agriculture, c'est extrêmement peu. Donc notre corps n'est pas complètement adapté à la nourriture issue du néolithique, c'est-à-dire une nourriture beaucoup plus riche, beaucoup plus sucrée, beaucoup plus molle. ce qui cause donc effectivement la situation alimentaire actuelle. Sur le PIB, ce qu'on constate, c'est au moins pour la France, c'est que non pas que le PIB décroît, mais que sa croissance diminue. Ça mesure la vitesse de croissance du PIB qui ne fait que diminuer. Et si on revient sur l'optimisme, eh bien, on a un état d'esprit pessimiste qui est relativement important, au moins chez les Français. Et si on prend au niveau du monde, les plus optimistes sont... En rouge, vous avez les pessimistes et en vert, les optimistes. Vous voyez, les plus optimistes sont les Chinois. C'est sans doute pas un hasard. Et la France est vers le bas, ici. La France est là. Donc 60-40. Et puis vous avez ici, et c'est peut-être pas un hasard non plus, le plus pessimiste étant le Brésil, et Mexique, Italie, Hongrie. On retrouve des pays qui ont quelques problèmes. Alors pour revenir à cette image, vous avez d'autres versions qui sont moins optimistes. De la même célèbre image, vous pouvez en trouver des tas sur Internet, des encore moins optimistes avec ce fameux débat sur l'intelligence artificielle. Et puis, évidemment, par rapport au débat actuel, vous avez aussi cette version comparative de l'évolution des hommes et des femmes. Dans l'art, quelques remarques finales, conclusives. Donc, c'était déjà comme ça il y a 32 000 ans. Donc, il y avait une sûreté du trait, puisqu'il n'y a pas eu d'évolution psychique notable depuis 30 000 ans chez les humains. Donc, si on regarde l'art contemporain, on voit que ça peut être beaucoup plus une démarche d'optimisation fiscale que de réalisation réellement artistique. Et si on prend quelques citations sur c'était mieux avant, hein, pour revenir à ce qu'on disait au début, donc vous voyez que il est dit là que tout va mal, hein, que les maîtres tremblent devant les élèves, que les jeunes méprisent les lois. Là, vous avez qu'il n'y a plus aucun espoir sur l'avenir du pays. Et puis, en bas, qu'on va être submergé par l'immigration et que la dénationalisation progressive de la France entière. Donc, si on prend les auteurs, ça, c'était Hésiode au 8e siècle, Platon au 4e, ou le géographe le roi Beaulieu en 1913, qui en 1913 considérait que La France était fichue du point de vue de sa population dite de souche. Là, puisqu'on est par rapport au progrès et au temps, je vous signalais juste en passant l'existence des fois de démarches qu'on appelle des capsules temporelles où on met des objets et on les enterre. Donc c'est de l'archéologie à l'envers, hein, et on les ressort beaucoup plus tard pour... voir finalement ce qui s'est passé. Là, par exemple, à Nantes, il y a le grenier du siècle. 8000 personnes ont mis des objets personnels dans 8000 boîtes. Et ça doit être ouvert le 1er janvier 2100 pour voir quelle est la signification de ces objets, s'ils peuvent encore servir, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et les archéologues ont beaucoup réfléchi justement qu'est-ce qui se passerait si on fouillait nos objets de nos civilisations dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Alors juste pour terminer, rappeler que ce qui a caractérisé donc l'histoire humaine, c'est une oscillation de période froide, là en bleu, et de période d'interglaciaire comme actuellement. Donc là, vous avez de 650 000 ans à zéro. Actuellement, on est dans un interglaciaire pour encore 3-4 000 ans, ce qui devrait nous rassurer sur le réchauffement climatique. Il suffit d'attendre encore 3-4 000 ans. Vous avez effectivement l'accélération des catastrophes naturelles, sûrement liées au changement climatique là, depuis 1900. Et pas, certaines ne dépendent pas du climat, comme les problèmes géologiques, mais terres volcaniques que vous avez, ou tremblements de terre que vous avez en jaune. Mais en revanche, les catastrophes hydrométéorologiques, elles augmentent très régulièrement. Et pour finir, le Big Crunch, le fait que dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus de soleil, et que donc, dans quelques milliards supplémentaires, l'univers peut repartir dans l'autre sens. Donc si vous voulez réviser, vous avez deux excellents livres à la sortie. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Demoule. Et d'ailleurs, concernant le livre, il y aura une signature ensuite, grâce à la présence de la librairie Gibert, entre midi et midi et demi. Est-ce qu'il y a quelques questions? Et je propose aussi à Majdi Couder de rejoindre la tribune pendant ce temps-là, et peut-être s'il a des éléments de projection. Oui, et vous présentez, puisqu'on enregistre la conversation.
Merci. André Brouchet, je suis président du club des éco-business angels, éco-ECO, pour écologie, développement durable, etc. Et après ce passionnant survol de milliers d'années, je voulais vous poser une question sur l'avenir. C'est-à-dire, compte tenu de ce que vous avez appris tout au long de votre vie, de notre passé, est-ce qu'on peut faire des hypothèses sur ce que va être notre monde dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, ou est-ce que c'est complètement débile?
On ne peut pas faire d'hypothèses précises. Sur le réchauffement climatique, par exemple, la Camargue, la Hollande ou le Bangladesh vont disparaître sous la mer, mais en même temps, on pourra cultiver la Sibérie. Et développer l'agriculture. Donc je pense que l'espèce humaine, qui était au départ une espèce africaine et qui était capable de s'adapter à tous les climats, l'espèce humaine survivra. Ensuite, ça dépend de... c'est pour ça que j'avais développé autour de l'idée d'effondrement. Effectivement, il n'y a plus de pyramides de Mayas, mais il y a toujours des Mayas. Il n'y a plus de masques d'or et de palais avec des fresques à l'époque créto-mycénienne, mais il y a eu toujours des Grecs. Donc le problème est de savoir effectivement quelle forme de société. Donc je pense que des humains, il risque d'y en avoir toujours. Après, ça va être leur type d'adaptation. J'ai pas développé le thème, mais quand on dit, est-ce qu'on dit, les ennuis ont commencé avec l'agriculture. Les ennuis, c'est ce que les humains font à chaque fois de leur société. Ils peuvent faire des sociétés plus ou moins désagréables à vivre. Donc ça, à ce moment-là, c'est leur problème. Donc pour botté d'une certaine manière en touche, les futures sociétés, l'environnement, effectivement, comme je vous l'ai dit, il va continuer à y avoir cette alternance de périodes chaudes où le niveau de la mer remonte, et puis de périodes froides où le niveau de la mer redescend, parce que c'est des oscillations cycliques de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Donc ça continuera toujours. En revanche, les formes sociales, elles sont à chaque fois ce que les humains en feront. Il y a eu des sociétés relativement pacifiques et relativement égalitaires et des sociétés complètement dictatoriales à l'opposé, mais qui n'ont jamais continué indéfiniment. Donc voilà, ça dépend effectivement de l'échelle du temps et du degré d'optimisme qu'on peut avoir sur la nature humaine, parce que c'était un vieux débat qui a au moins 5 siècles, hein, entre le philosophe Thomas Hobbes en Angleterre, qui écrit un livre qui s'appelait le Léviathan au XVIIe siècle, où il considérait que la nature humaine est mauvaise, c'est la guerre de tous contre tous, donc il faut un bon roi pour mettre de l'ordre. ce qui est plutôt le, donc le, ce qui sous-tend les théories politiques et les régimes politiques de droite, où au contraire vous avez Rousseau un siècle après qui considère que les humains sont bons naturellement, le contrat social, etc., mais déplorait déjà Rousseau, l'homme est né partout libre et partout il est dans les fers. Et donc là, c'est effectivement les visions plutôt optimistes de l'humanité. Voilà, je peux juste vous dire, c'est plus facile de prévoir le passé que l'avenir, donc je peux vous dire juste ce qui s'est passé, ce qu'on peut en inférer à un niveau un peu large.
Une question, je crois. Non, je pensais. Oui. Et donc, même règle, vous présentez.
Bonjour, je suis Deleskevitch, réalisateur de films. Et dans votre brillant exposé, vous n'avez pas parlé finalement tant que ça, alors que c'était sous-jacent, d'une archéologie de l'économie, au fond. Et vous ne citez pas Kondratiev, les fameux cycles chers à Braudel. Est-ce que c'est... bon, qui disait que finalement les dirigeants étaient dans l'incapacité de changer les choses, quels qu'ils soient, puisque ces cycles revenaient par nature. Est-ce que c'est une fatalité, ces effondrements, ou bien est-ce que... il faut s'y résoudre, ou est-ce qu'il y a des solutions qu'on se proposer selon vous au regard de l'histoire et des découvertes que vous avez pu faire selon vos travaux?
Effectivement, les cycles, y compris les cycles économiques récents, Kondratiev, etc., c'est plus un constat qu'une explication. On n'a pas vraiment d'explication. On constate que l'Empire romain a duré 5 siècles à peu près, et on constate aussi que la domination européenne du monde, elle a duré 5 siècles à peu près, que la Chine était plus avancée que l'Europe au XIIIe siècle, et que cette domination européenne, elle est en train de finir, et sans doute aussi la domination occidentale. Il y a des explications ponctuelles. On peut expliquer une partie de l'effondrement de l'Empire romain en prenant même en partie le problème à l'envers, c'est-à-dire se demander comment ils ont réussi sur une surface de 3 millions à peu près de kilomètres carrés et avec 2000 à peu près communautés ethniques différentes à faire tenir l'ensemble de ça pendant 4 ou 5 siècles. Après on va trouver à chaque fois des explications ponctuelles, mais on n'a pas encore d'explication totale. Si vous prenez, si vous vous intéressez à la science-fiction, la série Fondation de Asimov commençait de manière très positiviste, quasiment marxiste. On pouvait déduire les lois de l'histoire et savoir ce qui se passait. Et puis les derniers volumes sont complètement New Age et ailleurs, parce qu'il s'est passé 20 ou 30 ans dans la pensée occidentale sur la manière de regarder le monde. Donc nous, en tant qu'archéologues, on est censé rester dans le domaine de la science et pas de la spéculation. C'est-à-dire on peut observer ce qu'on voit et on essaie de valider nos hypothèses. Après, on va effectivement sortir du champ de la recherche scientifique classique. Donc il n'y a pas jusqu'à présent, de mon point de vue en tout cas, d'explications complètement satisfaisantes de ces mouvements cycliques où, comme je disais tout à l'heure, Paul Valéry, toutes les civilisations sont mortelles. C'est un constat, mais c'est pas une... petit 1, c'est un constat, c'est pas une explication. Et petit 2, il faut savoir qu'est-ce qui est mortel, comme j'essayais de le montrer. Est-ce que c'est juste la superstructure organisationnelle? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors effectivement, il y a des civilisations qui disparaissent sont plutôt celles qu'on fait disparaître de force, comme les civilisations des Amériques avant l'arrivée des Européens.
Bien, je demanderai à Majdi Kouder de vous rester là à la tribune, monsieur Demoule, puisqu'il y aura un dialogue qui pourra s'instaurer peut-être à partir de là. Donc Majdi, je te laisse le soin de te présenter puis d'introduire ton intervention. On a prévu aussi quelques petits enregistrements vidéo, donc on va procéder à cet enregistrement par ailleurs, et vous reviendrez ensuite à la tribune, monsieur Demoule. Mais je laisse la parole à Majdi.
Alors, je m'appelle Majdi Kouder, donc je suis professeur à l'Université de Poitiers, et je travaille aussi dans un laboratoire qu'on appelle le laboratoire XLIM, qui s'occupe d'électronique, de transmission, d'analyse d'images et d'intelligence artificielle. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des innovations, même si je suis chercheur, et je me suis posé la question quand on m'a proposé de faire la conférence, est-ce que je pouvais dire non ? Bon, connaissant Didier et Jackie, je n'ai pas pu dire non. Donc, j'ai dit, bon, comment je vois ça, n'étant pas historien, n'ayant pas d'analyse sociologique de cette question-là, je me suis posé la question comme un chercheur en disant d'abord c'est quoi la définition de l'innovation. Et donc je suis parti dans le Larousse pour voir cette définition-là, et donc en deux niveaux. Donc c'est ce qu'on appelle une innovation, c'est l'ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation, et on peut trouver différents exemples, mais ça peut être aussi sociétal, avec un changement dans notre société, un changement des normes ou des usages ou des traditions ou des coutumes. Et puis, je me suis dit, c'est quoi l'idée directrice de tout ça ? C'est toujours, on est animé par la question de mieux faire et donc de progresser. Cette notion de progrès va être constante. Mais j'aurais tendance à rajouter un autre terme, c'est le terme de mouvement. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas être dans un environnement immobile. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui avance, il y a un autre regard qui vient dire bah, peut-être qu'on peut faire autre chose ou avancer, ou il y a des contraintes aussi qui font qu'on avance. Et donc on est toujours géré par ces deux notions, le mouvement et la volonté de faire mieux. Après, toujours dans ma démarche de dire qu'est-ce que c'est l'innovation, finalement j'ai fini par comprendre qu'on pouvait catégoriser ça avec trois approches. La nature, c'est-à-dire qu'on parle de quoi ? De quelle nature d'innovation ? Alors bien sûr, vous avez l'innovation technologique, vous allez retrouver le four à micro-ondes, vous allez retrouver votre smartphone, vous allez retrouver un nombre d'éléments. Vous avez l'innovation d'usage, et là vous allez retrouver différents types d'usages. On peut citer BlaBlaCar récemment, mais il y a d'autres exemples. Il y a une application qui vient de sortir que je trouve excellente, qui s'appelle Be My Eyes, et c'est pour les malvoyants qui, avec leur smartphone, il y a un certain nombre de gens qui s'inscrivent, et puis avec leur smartphone, quand ils ne voient pas bien quelque chose, ils demandent à la communauté, voilà, je vous montre la chose, et dites-moi oralement en quoi ça consiste. Et donc, je trouve ça génial comme aide pour la vie de tous les jours, cette innovation qui peut paraître toute simple et évidente, et d'ailleurs, c'est comme toutes les innovations, une fois qu'on les a trouvées, ça paraît évident. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Et puis après, vous avez les innovations sociales. On peut citer les nouvelles formes de microcrédit, enfin un certain nombre de choses qui gèrent notre société. Puis après, vous avez cette notion d'objet d'innovation. Et là, on va migrer plus vers ce qui est industriel, avec la notion d'un objet qu'on va réaliser, avec la notion de produit, le processus pour le fabriquer, la notion de commercialisation avec tous les systèmes de marketing, et puis comment organiser la structure pour arriver à fabriquer ce produit avec les meilleurs coûts, dans les meilleurs délais. Et donc, ça implique aussi une innovation au niveau organisationnel pour ce produit-là. Et puis, le troisième aspect qui intervient dans l'innovation, c'est les gens se sont posés la question, finalement, ça arrive, c'est quoi ? Est-ce que c'est une rupture par rapport à ce qui existait avant ? Est-ce que c'est incrémental ? Ça veut dire qu'on a juste amélioré. Alors améliorer, ça peut être votre souris d'ordinateur qui était avant une souris à billes, et puis maintenant on a mis des capteurs optiques à l'intérieur. Ça, c'est une amélioration, mais ça n'a pas changé la fonction. Quand c'est une rupture, c'est que vraiment on est passé à une autre technologie. Quand vous êtes avec votre smartphone par rapport à votre téléphone fixe, là on est passé vraiment à une autre technologie. Et puis il y a ce qu'on appelle une innovation d'assemblage, ça veut dire qu'on va assembler plusieurs technologies qui existent pour créer un nouveau produit. Par exemple, il y a dans les jeux, tout ce que vous avez la Wii ou la Kinect, c'est de l'assemblage de technologies qui existent, vision, accéléromètre, un certain nombre de choses, transmission, et vous aboutissez à une nouvelle technologie. Et puis la notion d'adaptation, c'est prendre quelque chose qui marche bien dans un secteur et le mettre dans un autre secteur. Alors l'exemple le plus trivial, c'est les fast-food avec leur drive, McDonald's et compagnie, qu'on a transposé dans les drives des supermarchés pour une autre utilisation, mais c'est le même principe. Donc ça, c'est de l'innovation par transposition, on va dire, ou par adaptation d'un système dans un autre. Et ça, c'est un élément aussi qui est très intéressant, parce qu'on va le retrouver plus tard, c'est quand on va se confronter à la notion de mondialisation et de culture, finalement, c'est utiliser des choses qui sont développées en d'autres lieux et les adapter pour les intégrer à tel ou tel endroit du monde. Alors, donc, une fois que j'ai compris à peu près comment les gens voyaient l'innovation et la définissaient, moi, je suis parti sur une approche, d'ailleurs, que je trouve finalement, après coup, assez complémentaire. Je suis pas parti sur une granularité historique ou une granularité sociétale, mais plus sur une granularité individuelle en disant, dans mon métier d'enseignant-chercheur, c'est quoi l'innovation et c'est quoi la plus-value pour moi dans mon quotidien. Et donc je suis enseignant-chercheur. Alors, enseignant-chercheur, ça consiste à faire un métier qui a trois facettes. Alors, il y a une facette, bien sûr, enseignement, il y a une facette recherche, et puis il y a une facette administration, comme Didier l'a précisé. J'ai eu le plaisir de gérer l'IUT de Poitiers-Niort-Châtellerault pendant 10 ans, avec cette facette aussi administration. Et donc, je me suis posé la question, finalement, dans mon quotidien, est-ce qu'on faisait de l'innovation, ou est-ce que, finalement, je reproduisais de la continuité, ou est-ce qu'on faisait des choses sans y réfléchir, parce que ça s'est toujours fait comme ça. Vous savez, c'est un peu comme dans les familles, où il y a plein de choses qu'on fait, parce qu'on a eu coutume de les faire sans vraiment se poser un jour la question, est-ce qu'il y a toujours la même logique, ou est-ce que ça justifie toujours dans le temps. Et je suis parti sur l'idée, finalement, enseigner, c'est quoi? Avant d'innover, c'est pour faire quoi enseigner? Puis on se rend compte qu'enseigner, c'est toujours un binôme. Vous avez quelqu'un qui essaye de transmettre un message et puis vous avez un public récepteur. Et donc à partir de là, la première question, c'est de dire, est-ce qu'on m'écoute ou est-ce que je peux raconter n'importe quoi? De manière, la personne est sur son smartphone, comme Didier, en train d'envoyer ses messages sentimentaux. Donc... ou alors, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est rendre le public actif. Ça veut dire venir, et c'est vrai que ça, c'est un des grands défis des enseignants, c'est comment faire pour que les étudiants, quand ils arrivent, ils soient intéressés par ce qu'on va dire, et donc qu'ils soient actifs, et donc à ne pas faire de la dictée en cours, mais faire un échange, même s'il est fortement directionnel. Et puis, la notion de retour sur l'erreur, ça veut dire tester, essayer, permettre l'erreur, revenir, progresser à partir de ça, et c'est le système en boucle. Et puis, bien sûr, la consolidation qui vient au travers de la répétition. Et donc, je me suis dit, finalement, aujourd'hui, on est dans une phase, enfin, à l'université, mais même au-delà, dans les lycées, puis pour vos enfants, on parle beaucoup d'innovation pédagogique. Alors, toujours cette question d'innovation pédagogique. Moi, je suis un peu perplexe sur ça, même si je suis toujours ouvert à ces questions-là. Mais vous allez entendre parler en ce moment de classe inversée. Okay, classe inversée, qu'est-ce que c'est une classe inversée? Finalement, c'est pas on paye les étudiants et c'est le prof qui écoute. Non, c'est pas ça, la classe inversée. La classe inversée, c'est de dire, on dit aux étudiants d'étudier le cours avant d'arriver, et finalement, on fait un accompagnement plutôt qu'un enseignement. Ce qui est un peu différent, ça contribue à rendre les étudiants actifs dans leur démarche, et on estime que ça peut être plus optimal comme système dans l'enseignement. Alors, en réalité, ça ne marche pas toujours, mais les cas où ça marche bien, c'est finalement les cas où les étudiants ont une contrainte forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez des étudiants qui ont un concours à passer, qui ont choisi de passer ce concours-là, que ce soit médecine ou autre, là, eux-mêmes, ils sont dans une démarche active et ils vont travailler par eux-mêmes et revenir vers vous avec un certain nombre de questions. Si vous prenez des étudiants de formation, ce qu'on appelle initiale, c'est-à-dire le cycle classique où on passe de classe en classe, il n'y a pas d'enjeu, on doit juste passer l'année, la motivation se retrouve beaucoup moins forte. Et donc, à partir de là, faire des classes inversées pour ce public-là devient un peu plus compliqué. Et donc, toute la question, c'est de doser l'innovation. Est-ce qu'elle est adaptée à tout le monde? Est-ce que c'est des cas particuliers? Et toute la difficulté, c'est d'adapter les innovations au public qu'on a et à la temporalité à laquelle on est soumis. Après, pardon, je suis passé tout de suite. Voilà. Après, il y a quelque chose que je trouvais aussi rigolo dans notre quotidien, c'était la notion d'évaluation. Alors, vous avez tous subi cette évaluation, où c'était des examens finaux au début, après c'est devenu par semestre, après c'est devenu du contrôle continu. Et puis après, maintenant, c'est à la mode, on donne aux étudiants des buzzers avec à la fin du cours des QCM, et puis pour voir tout de suite s'ils ont compris. Et donc, vous voyez à la fin du cours exactement en deux minutes, avec une série de QCM, les étudiants répondent et vous voyez tout de suite si les notions sont comprises ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui se pratique maintenant fortement. Alors, c'est une innovation, sauf que ça ne tient pas compte d'une chose, enfin, ou alors il faut la manier avec prudence, c'est qu'on a tous besoin d'un temps d'assimilation, d'un temps de réflexion, d'un temps pour revenir sur ce qu'on a entendu une fois, deux fois, trois fois, pour assimiler ça. Et donc la notion de résultat immédiat d'un message passé reste quand même relative et donc il faut utiliser ça avec mesure. Donc est-ce que c'est un effet de mode? On verra, l'avenir nous le dira. Mais aussi, il y a cette notion qui est aussi intéressante, notamment dans les processus de formation tout au long de la vie, c'est que les nouvelles technologies peuvent nous permettre aussi une auto-évaluation sur des thèmes précis, en fonction de notre expérience, en fonction d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est aussi une nouveauté en termes d'évaluation, où on a une autonomie dans l'évaluation, alors qu'avant, on était toujours dans une évaluation par ses pairs ou une évaluation guidée. Et puis, ce profil, même si ce n'est pas encore bien rentré pour X raisons, les environnements immersifs. Alors, qu'est-ce que c'est les environnements immersifs, hein? Vous avez tous vu ces casques 3D qu'on peut mettre. Et maintenant, ils rentrent de plus en plus. Avant, c'était pour les jeux. Maintenant, ils rentrent de plus en plus dans l'éducation. On est au tout début du chemin, mais ça offre beaucoup d'avantages. Alors, les avantages, c'est quoi? Enfin, il y en a plusieurs, mais on peut citer différents avantages. D'abord, vous avez l'accès à des enseignements en immersion. Quand c'est des gestes techniques, quand des choses particulières, vous pouvez faire de l'immersion sans risque. Ça, c'est un premier point. Vous avez un accès en termes de coûts, puisque c'est du matériel qui se démocratise de plus en plus. Et maintenant, finalement, il y a des casques, bien sûr, qui coûtent 2 000, 3 000 euros. Mais c'est surtout, il y a des casques qui sont faits à partir juste d'un casque avec des lentilles où vous insérez votre smartphone. Et là, tout le monde a un smartphone. Et à partir de là, le casque devient une centaine d'euros. Et ça devient de la démocratisation. Mais ce n'est pas ça tellement l'intérêt. L'intérêt, c'est que ces environnements immersifs vous permettent, si c'est utilisé dans ce sens-là, finalement de casser la géographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer une classe virtuelle où il y a quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est en Maroc, quelqu'un qui est en France, et on peut travailler sur un thème technique avec des regards croisés et avec des interactions au travers de ces environnements virtuels. Et donc là, on est vraiment au début du chemin, mais c'est quelque chose qui devrait prendre de plus en plus de place, et notamment dans les processus de formation tout au long de la vie. Voilà. Et puis après, j'ai mis un dernier point, parce que moi, je suis enseignant à l'IUT, et finalement, le système IUT a été conçu pour répondre à des besoins dans l'industrie et des besoins techniques. Et finalement, c'est un système qui date de 50 ans, donc ce n'est pas une innovation récente, mais qui marche très bien parce que l'assimilation des savoirs se fait au travers d'une progression qui est constituée de cours magistraux, bien sûr, mais aussi de travaux dirigés en groupe plus réduit, de travaux pratiques de groupe encore plus réduit et de projets en autonomie. Et vous voyez que quand on traverse toutes ces phases-là, finalement, on finit par être opérationnel sur un thème parce qu'on a répété les choses de manière différente, on a mis de la pratique, on a mis de la théorie, on a mis de l'autonomie et on revient sur les bases de l'enseignement. Et ça date de 50 ans. Et ça reste, même si c'est un peu plus ancien, vraiment efficace. Alors, je me suis posé aussi la question de l'innovation dans l'administration. Alors, l'image qu'on a de l'administration, ce n'est pas toujours l'innovation. Alors, ce n'est pas fait pour ça non plus, mais c'est, on va regarder l'administration d'un point de vue optimisation, alors. Et donc, à partir de là, vous avez des questions de coûts, vous avez des questions de logistique. Et bien sûr, on va, avec les nouvelles technologies, sur les questions de dématérialisation, les cartes d'accès aux différents services. Mais aussi, par exemple, quelque chose qu'on voit arriver, c'est les jurys que vous pouvez faire à distance, les recrutements que vous pouvez faire à distance. Et d'ailleurs, même nos étudiants, maintenant, on essaye de les former à des recrutements par Skype, enfin par visio ou par téléphone. Et ça, c'est quelque chose, bon, ça paraît anodin, mais c'est très déstabilisant d'avoir un entretien au travers d'une caméra. On peut avoir un entretien de vis-à-vis, ça passe assez naturellement, même s'il y a le stress de l'entretien. Mais au travers d'une caméra, on se rend compte que les réflexes sont très différents. Et à partir de là, c'est un autre processus qui s'engage. Alors après, vous avez aussi en administration quelque chose que nous, on voit les universitaires, qui est très pratique. C'est ce qu'on appelle EduRoam, c'est le réseau Internet pour les universitaires et les chercheurs. Et finalement, on peut aller dans n'importe quel pays en Europe. On est connecté immédiatement au réseau. Dès qu'on est au sein d'une université européenne ou d'un laboratoire de recherche, on a accès à ce réseau qui est ouvert partout en Europe. Et donc, vous avez accès à toutes vos données immédiatement. Et ça, c'est une innovation de partage qui a été faite. Et bien sûr, au niveau recherche, on est dans des phases de regroupement par consortium, réponse à appel à projet. Et la démarche projet fait maintenant qu'on ne peut pas y aller tout seul. On est toujours dans des démarches groupées et de réseau. Et puis, en termes de management, c'est vrai que l'administration, c'est quelque chose de particulier parce que c'est, vu de l'extérieur, c'est un monde protégé. Et vu de l'intérieur, c'est un monde anonyme, finalement. Vous avez pas de... C'est assez anonyme, l'administration. Mais on voit en ces moments des choses qui se modifient, c'est-à-dire on fait intervenir de plus en plus des coachs pour les managers, on fait de la formation tout au long de la vie. Il y a un certain nombre de choses qui bougent pour remettre l'humain plutôt que les procédures au centre de l'activité. Alors, maintenant, bien sûr, comme je suis aussi, j'ai une partie chercheur, alors c'est ce qui paraît le lien le plus évident, mais finalement, ce n'est pas si évident que ça, recherche et innovation, parce que vous pouvez faire de la recherche sur des thèmes fondamentaux, trouver des choses. Est-ce que c'est novateur au sens où ça va se traduire par des résultats sur la société? Peut-être pas tout de suite, peut-être dans 100 ans. Donc, le lien ne paraît pas immédiat au quotidien, mais tout le monde est convaincu de la nécessité. Et puis, vous avez aussi cette recherche au niveau technologique, finalement. Quel passage on transfère en technologie et comment ça se retrouve dans notre quotidien? Et bien sûr, ce que je disais juste avant, l'aspect organisationnel. Alors, j'ai choisi de prendre un thème pour la recherche plutôt que de balayer. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est aussi un élément de rupture, peut-être, ou vu comme ça par rapport à ce qui s'est passé avant. Les nouvelles technologies, c'est des choses qui amènent d'autres éléments à prendre en considération dans l'évolution de l'être humain. Et finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et puis, je me suis dit, bon, moi, je travaille un peu sur ça. L'idée, c'est de dire, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, je m'étais posé la question avant de l'intelligence humaine. Et puis, ça m'a rassuré parce qu'en intelligence artificielle, on est très éloigné encore. Donc, ça va. Et donc, l'idée, c'est de dire quelle prise de décision par rapport à quelle mesure ou quelles données disponibles pour prendre cette décision. Alors, pourquoi c'est des choses qui vont s'accélérer? Parce que les briques sont déjà disponibles. Les algorithmes de prise de décision, pour faire rapide, c'est des maths qui existent depuis un certain temps. C'est-à-dire les algorithmes sont mis en place, il y a beaucoup de théories déjà éprouvées, tout ça est disponible. Vous avez la notion de capteur pour la prise de mesure avant la décision. Si vous regardez, on va être de plus en plus entouré d'objets connectés. Les objets connectés, ça veut dire que ça retransmet un certain nombre de données, rien que votre téléphone portable peut vous tracer, peut vous donner votre rythme cardiaque. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont accessibles. Et donc, qui dit données, dit transmission de ces données. Et puis, troisième élément, vous allez avoir la notion de, une fois qu'on a beaucoup de données, donc on va appeler ça le big data, c'est est-ce qu'on a les capacités de calcul pour ça? Et ça aussi, c'est une brique qui commence à être disponible. Et vous avez des gros calculateurs qui peuvent aller très vite pour avoir ces capacités de calcul. Alors, surtout, je m'attendais qu'il y ait une réflexion en disant c'est bien beau tout ça et qu'on va pouvoir prédire un certain nombre de choses. Sauf qu'on a l'impression, alors c'est sans parti pris, qu'en général, nos hommes politiques ont du mal à prédire ce qui va arriver et qu'on a l'impression d'être toujours dans des surprises tous les jours dans la vie quotidienne. Donc, voilà, il faut relativiser aussi ces choses-là. Et donc, l'idée maintenant, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire de ça pour que ça soit une plus-value et pour que finalement, ce qui pouvait être que de l'ordre de la prédiction passe un peu au niveau certitude, puisqu'on a les données en temps réel. Et à partir de là, il y a certaines décisions qui peuvent en découler. Et donc, je vous ai mis un peu la chaîne un peu de ce qu'on appelle de l'intelligence, mais vue du laboratoire. C'est-à-dire que vous avez votre monde réel, voilà ce qu'il est, votre environnement. On a notre capteur. Ça, on le traduit en données numériques. On repart sur un traitement. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser des algorithmes pour ce traitement-là. On va vouloir les interpréter, ça veut dire sortir des descripteurs. Est-ce que, enfin, je pouvais vous montrer des applications qu'on a, par exemple, avec des gens qui font de la cosmétique. Est-ce que sur la peau, quand vous mettez de la crème, quel effet ça a sur votre peau? Est-ce que ça la rend moins rugueuse? Est-ce que ça dure dans le temps? Et donc ça va être des éléments où on va développer ce qu'on appelle des descripteurs pour les traduire en informations lisibles par l'être humain. Et puis, il y a cette notion d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi on appelle ça? C'est parce qu'on utilise quelque chose qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc, c'est des cellules qu'on rapporte un peu aux neurones du cerveau, qu'on va programmer pour qu'ils nous donnent un résultat en fonction de données d'entrée, mais aussi en fonction d'un certain apprentissage. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tiens, on a une base de données de 1000 échantillons. Sur ces 1000 échantillons, on a la réponse pour chaque échantillon. Donc, on le fait apprendre, ce qui lui permet d'adapter ses paramètres. Et à partir de là, on peut l'extrapoler sur d'autres données. Et puis, après, vous avez votre notion de décision. Alors, moi, je travaille plus sur ces questions-là, mais à partir d'images. Ça veut dire que l'idée, on a tous maintenant des capteurs images avec nous, et l'idée, c'est de dire comment, à partir de l'image, je peux extraire des données, sachant que votre cerveau le fait naturellement et très rapidement. Vous ne posez pas la question. Et d'ailleurs, une des questions toutes simples, c'est, vous voyez tous en stéréovision, ça vient de vos deux yeux. Et à partir de là, on a essayé de retraduire ces éléments-là, la stéréovision, l'interprétation que fait le cerveau. Et on avance comme ça progressivement en décortiquant un peu la démarche que l'on fait humainement. Et d'ailleurs, on entend beaucoup en ce moment parler de véhicules autonomes. Vous verrez, il y a des capteurs de stéréovision pour détecter, il y a des radars, et tous ces éléments-là sont faits pour de l'information et un moment que le véhicule puisse prendre une décision et la bonne au niveau de la conduite. Donc, je vais juste faire un focus sur ce que je fais au quotidien aussi en recherche. Donc, l'idée, et c'est intéressant en termes de tradition, l'idée, c'est de dire, moi, je travaille sur l'image. Donc, on s'est posé la question, comment se forme une image sur votre capteur? Et donc, ça veut dire que vous avez un objet, vous l'éclairez pour qu'il soit visible. L'image voit ce que voient vos yeux. C'est-à-dire que si vous êtes dans le noir, ben, le capteur ne voit pas, enfin, le capteur visible ne voit pas d'image non plus. Donc, on éclaire l'objet. Cet éclairage est réfléchi par l'objet pour aller vers la caméra. Et la caméra va avoir un capteur qui va traduire ces réflexions-là en niveau d'énergie. Et après commence le travail de celui qui traite l'image en disant ces niveaux d'énergie, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'en déduis comme information. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça avec beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de capteurs performants, mais le modèle qu'on utilise pour traduire finalement le retour de l'éclairage sur l'objet vers le capteur, c'est ce qu'on appelle un modèle de Lambert qui permet de traduire la diffusion de la lumière au travers en retour d'un objet. Et ce modèle de Lambert, il date de 1760. Et ça marche très bien. Donc voilà, donc c'était intéressant de signaler ça. Et que finalement, on est dans des phases où on a des outils maintenant qui nous permettent peut-être de mieux exploiter ce qui a été fait avant. Et on avance de cette manière-là. Donc là, vous avez, j'ai mis rapidement, hein, vous avez votre objectif, votre caméra. C'est ce que vous avez vraiment sur votre smartphone. Donc, vous avez un capteur CCD. On vous parle de nombre de pixels. Ça veut dire que le nombre de points sur lesquels on va recueillir des niveaux d'énergie. Plus le nombre de points est élevé, plus vous allez avoir de la précision au niveau de votre image. Et puis, ces niveaux d'énergie vont se retrouver sur la figure là que je vous ai mise au coin. et qui représente, pour une image donnée, les niveaux d'énergie. Et donc, toute la difficulté, c'est de dire, à partir de ça, qu'est-ce que je fais ? Sachant qu'en chaque point, puisque c'est la photo d'une scène, dans une scène, quand vous regardez, vous avez 3-4 informations qui sont quoi ? Qui sont finalement, quel est le relief de votre scène ? Quelle est la colorimétrie de votre scène ? Et quel est l'aspect des objets dans votre scène ? Et à partir de là, en chaque point de mon capteur, j'ai ces trois informations qui sont mélangées. Et donc, tout le travail de celui qui traite les images, c'est de dire ben, comment je sépare les informations et comment je récupère que celles qui m'intéressent. Et donc, l'exercice, alors, Didier, tu vas t'y prêter, si tu trouves, c'est quoi, 100 euros, voilà. Ça, tu m'as dit. Non, par contre, si tu ne trouves pas, c'est dans l'autre sens. Ouais. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, finalement, vous voyez ce qu'a un capteur. Est-ce qu'on peut deviner ce qu'il y a derrière cette image ? C'est pratiquement impossible, pour ne pas dire impossible. Ça veut dire que là, on peut se dire, tiens, il y a des ravins, il y a des canyons dans l'image, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est pratiquement impossible de deviner qu'est-ce qu'il y a en termes de niveau d'énergie, ça représente quelle image. Et donc, si je vous fais représenter l'image... Voilà. Et donc, vous voyez que c'est difficile de prévoir ce genre de choses. Et donc, toute l'idée, ça va être de dire comment c'est par ça, par des systèmes d'acquisition particuliers, et comment on traite derrière. Juste pour l'exemple, hein, on a été confronté avec les constructeurs automobiles et puis les gestionnaires de route à des problématiques qu'ils ont, c'est de dire ben, finalement, que, vu le nombre de kilomètres qu'il y a sur les routes, comment on gère l'adhérence des routes, comment on gère cette information pour les questions de sécurité, pour les distances de freinage, comment on gère le fait qu'il y ait de l'humidité sur la route ou pas, au niveau du freinage, et comment les gestionnaires gèrent aussi les dégradations au niveau de la route, parce que c'est un vrai problème pour eux de détecter les dégradations dès qu'elles démarrent pour minimiser les coûts d'intervention et les temps d'intervention. Sachant que vous voyez tous la contrainte qu'il y a quand on a une route qui est bloquée ou en travaux, les bouchons que ça fait et les désagréments que ça induit. Donc là, les trois analyses qu'on a faites à partir de nos systèmes de traitement d'image, le premier, c'était avec un constructeur automobile pour les questions de rugosité de la route. Donc l'idée, c'était d'aller de prendre des photos de la route, d'instaurer un système sur le véhicule, prendre les images et lui redonner la valeur de la rugosité de la route pour gérer ses systèmes d'ABS et de freinage. Le deuxième, ça a été de dire finalement, les gens qui s'occupent de sécurité sont venus nous dire en disant, ça serait bien d'avoir un témoin qui nous dise finalement, est-ce que je peux appuyer ou pas sur l'accélérateur quand je suis sur une route humide ou mouillée. Avec le raisonnement suivant, c'est de dire, Quand il est en train de pleuvoir, ça ne nous intéresse pas trop, parce que tout le monde a le réflexe naturel de lever le pied et donc de rouler doucement. Par contre, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est une fois qu'il s'est arrêté de pleuvoir, là, tout le monde a le réflexe de dire on réappuie. Mais à la nuance près, c'est que les caractéristiques d'adhérence de la route, une fois que le sol est mouillé, quand il s'arrête de pleuvoir, elles restent identiques en termes de glissance pendant 80 minutes. C'est-à-dire vous avez 80 minutes, vous êtes toujours aussi en danger que quand il pleut, sauf que là, vous appuyez franchement. Et donc, la question, c'est de dire, est-ce qu'on peut mesurer l'humidité au niveau de la route pour indiquer aux gens qu'il y a une difficulté. Et puis, troisième exemple, rapidement, c'est un exemple qui me tient à cœur parce que c'est les fissurations au niveau des routes. Et ça me tient à cœur parce que d'abord, c'est un problème vraiment compliqué, mais qu'actuellement, comment se fait cette détection de fissurations ? Vous avez des sociétés où on vous met des caméras sur les véhicules, ils prennent des kilomètres de route, et après vous avez des personnes à longueur de journée qui ont le défilement d'une route sur l'ordinateur, sur l'écran, et puis elles sont en train de repérer, donc vous voyez la pénibilité du travail, bon, on les oblige à s'arrêter toutes les heures pour faire une pause, mais vous voyez la fatigue visuelle que ça peut entraîner, et puis le côté agréable du travail. Donc voilà, on sera ravis que notre solution puisse être implantée. Après, je me suis posé la question, maintenant je m'extrais un peu de la partie recherche, je me suis posé la question, finalement, cette innovation, elle est motivée par quoi ? Alors, par le réflexe, on se dit, c'est forcément un progrès et une plus-value sur notre vie Et donc là, il n'y a pas de souci. Il y a une certaine recherche qui se fait. Et d'ailleurs, on est tous guidés par améliorer notre quotidien. Il y a aussi cette innovation parce qu'on est aussi dans un monde de compétition. Et entre les entreprises, la question de marché, la question de compétition entre les êtres humains fait qu'on est dans cette démarche-là constamment. Et puis, j'ai l'impression que récemment, on passe sur un autre mode d'innovation. On n'est plus dans des phases où l'avenir paraît tout rose, mais on est dans des phases où on se dit il y a peut-être quelques questions qui vont se poser à nous à l'avenir et qu'il va falloir trouver des solutions. Et donc, c'est vrai que ce qui revient le plus en ce moment, c'est le réchauffement climatique. Quelles solutions trouver? Et ça, il y aura de l'innovation, et forcément. Les questions d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait pour les sources d'énergie? Qu'est-ce qu'on fait pour un certain nombre de choses, sachant qu'on accélère les mobilités, on accélère un certain nombre de choses. L'alimentation, on a parlé de démographie. Donc, c'est une vraie question qui va se poser à nous. Et donc, toutes ces questions-là deviennent dans ce que j'appellerais, moi, de l'innovation contrainte avec une accélération de l'échelle du temps. C'est vrai que mon collègue a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'évolutions, mais si vous avez regardé, enfin, ce que j'entendais, c'est qu'on était sur des évolutions avec des échelles de temps relativement longues et une adaptation progressive. Là, j'ai l'impression, mais c'est un avis que personnel, qu'on passe sur une accélération des choses avec des défis qui deviennent de plus en plus contraignants et ou des solutions. Quand on nous parle, il faut d'ici 2050. 2050, à l'échelle de l'histoire, c'est très rapide. Et donc, trouver un certain nombre de solutions. Alors, je me suis posé une autre question, mais ça, c'est lié au fait que j'ai eu la chance de me déplacer dans différents pays pour, dans le cadre de mon travail. Et je me suis toujours intéressé à dire comment les gens réagissent dans d'autres cultures pour, vis-à-vis de l'innovation. Et finalement, il y a deux blocs qui m'apparaissent, mais vraiment de manière très grossière. C'est dans tous les pays où j'ai été, où la notion de démocratie n'est pas celle qu'on voit en Europe, disons qu'elle est un peu plus guidée, l'innovation posait problème. Enfin, posait problème au sens que les gens avaient développé des réflexes de ne pas... il fallait innover, mais sans modifier des choses. Et donc, cette notion de contrôle, je la ressentais dans ces pays-là comme vraiment un frein invisible à l'innovation. Et donc, on était sur une innovation à dupliquer des choses qui existent en d'autres endroits, à maîtriser les résultats, ce qui est contraire à ce qui est une innovation. Au départ, vous allez un peu en tâtonnant et puis après, on arrive. Et donc, culturellement, on se rend compte que finalement, il y a deux approches, hein, les approches dans les pays où la liberté est un peu plus forte et dans les autres pays, et ça conduit à des innovations qui sont très, très différentes, on va dire. Et à mon avis, même dans l'avenir, ça fera des différences de progression pour ces environnements-là. Après, tradition et innovation, ça revient aussi à cette question-là, c'est-à-dire il y a des cultures où il y a des choses où on ne s'y attaque pas parce que par tradition, c'est un peu tabou, entre guillemets, et donc vous avez tout un tas de domaines sociaux qui ne sont pas accessibles à l'innovation parce que les choses se font comme ça, par tradition, et ainsi de suite. Et c'est assez flagrant quand on se déplace, et c'est intéressant aussi à voir. Après, la notion d'innovation et mondialisation, je me suis posé cette question en disant, ben, finalement, la mondialisation, ça a un intérêt pour l'innovation, parce que c'est un partage de savoir. Donc, plus on se déplace, plus on regarde les choses différemment, et plus on peut partager le savoir. Mais aussi, la notion, avec les nouvelles technologies, on se retrouve avec des pays, et je pense que les équilibres risquent de changer. C'est que avant, vous aviez toutes les technologies lourdes, ce qu'on appelle la mécanique, le nucléaire, l'électricité, tout ça, qui nécessitait des investissements importants, une formation importante, et une structure importante. Et puis là, vous avez les nouvelles technologies qui arrivent, avec tout un champ d'innovation qui s'ouvre, qui est finalement accessible à tout le monde. Hein, vous avez beaucoup de pays, d'ailleurs des pays comme l'Inde s'engouffrent dans tout ce qui est informatique, avec tout ce qui est développement informatique, et qui ne nécessite pas des moyens lourds, et donc qui permet dans ce domaine-là un rattrapage des décalages qui va être de plus en plus rapide. Voilà, c'était sur quoi je voulais terminer, avec aussi une question que je m'étais posée finalement, quelles pouvaient être les constantes de l'innovation. Et pour ma part, hein, mais je le répète, hein, c'est un témoignage uniquement personnel, si finalement les constantes, c'est que ça soit une plus-value vers envers notre environnement de vie. On aspire tous à une qualité d'environnement pour notre vie, une qualité au niveau de notre travail, une qualité au niveau de nos loisirs, au niveau de nos soins. Et donc, ces constantes-là, tant qu'on répond à ces constantes-là, finalement, on continuera à faire de l'innovation dans le bon sens.
Voilà. Merci, Majdi. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette intervention? Toujours la règle.
Donc André Brouchet, accélérateur de connexion fertile. C'est une des définitions e-coach connecteur. La connexion, le passage de l'information est innovant. On le voit dans les TEDx, par exemple. Et je vois le succès remporté par ces conférences très organisées, très scénarisées, mais très très bien présentées. Et je me dis, les universitaires et les TEDx, ça doit matcher ensemble, comme on dit. Donc, quelle est votre opinion? Vous avez fait, enfin, c'était tout à fait intéressant tout ce que vous avez dit. Et l'usage tradition et modernité, que faites-vous? Alors, y a-t-il du TEDx et puis d'autres manières de faire passer? Moi, je rêve qu'il y ait un TEDx ici à l'espace Mendès France. Hein, le message est passé.
C'est le mois prochain, il y en a un TEDx. Je peux compléter ce que dit notre ami. Quand tu présentes l'innovation par rapport à l'éducation, et sans entrer dans une confrontation totale là-dessus, est-ce que tu penses que l'innovation est est quelque chose qui s'oppose à une vraie pédagogie?
Il y a deux questions. Alors, l'innovation, ça ne s'oppose pas à la pédagogie. Par contre, actuellement, il y a un réflexe qui est de dire l'innovation va minimiser les coûts de l'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qu'il faut écarter tout de suite, parce qu'on se rend compte que l'innovation, finalement, nécessite plus de temps et induit des coûts plus importants. La question des TEDx, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Mais je vais faire un petit détour, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que finalement, on doit changer vraiment la pédagogie parce que toute l'information est disponible sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup de TEDx, il y a beaucoup de documents, vidéos. C'est vrai qu'on peut avoir un apprentissage fort. Et puis, on se rend compte finalement dans la pratique, pour faire ça, je vais citer deux exemples. Nous, on a des étudiants qui viennent après le bac, donc avec des performances différentes. Et on se rend compte que c'est les excellents étudiants ou les meilleurs sur lesquels on peut envoyer ces questions de TEDx et d'auto-formation. Et les étudiants qui sont plus en difficulté, rien ne remplace la présence humaine qui va cerner où est leur difficulté, appuyer sur le bon déclic pour avancer. Après, je cite toujours le même exemple, c'est de dire on peut être tous autour de la salle avec des diplômes très élevés, des doctorats, tout ça. Et moi, je ne suis pas du tout dans le domaine médical. Et le réflexe, c'est quand je vais chez le toubib et qu'il me dit, tiens, vous avez peut-être ça comme problème. D'abord, sur place, je n'ai pas très bien compris. Le soir, je rentre, je me dis, tiens, j'ai des connaissances quand même. Je vais sur Internet, je tape le nom qu'il m'a dit. Donc, au bout d'une heure, je déprime. Le lendemain, je dis, je vais mourir dans la soirée. Donc, vous voyez que même en ayant des diplômes, on n'a pas construit pour assimiler ces informations qui ne sont pas de notre domaine, et on peut multiplier les exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi un rôle, même si la formation est vraiment présente sur Internet, sans toujours être maîtrisée, mais elle est présente, beaucoup. On a besoin maintenant, à mon avis, de produire un socle qui permet de décoder. Et toute la difficulté, c'est de dire jusqu'à quel niveau on pousse la formation et on dose finalement la formation guidée avec la formation en autonomie, au travers des TEDx, des choses comme ça. Mais il faut qu'il y ait un socle de décodage. Et vous allez vous rendre compte que ce socle de décodage, finalement, nécessite beaucoup de temps. Et sinon, vous ne pouvez pas affronter tout ce que vous voyez sur Internet. Et je vous dis, les exemples sont nombreux. On peut prendre un thème en philosophie. Moi, je vais y aller, je ne vais rien comprendre au bout de la deuxième ligne. Et donc, la question, c'est très difficile, enfin moi, ce que j'ai remarqué, c'est très difficile de mettre quelqu'un devant un ordinateur sur un thème qu'il ne connaît pas et juste en écoutant, avoir tous les mécanismes qui se mettent en place pour comprendre, appréhender et s'approprier le savoir. Et ça, c'est vraiment, je ne l'ai pas vu faire. Et donc, il y a toute une progression à faire et arriver avec un socle qui est vraiment solide pour pouvoir suivre les évolutions de ce type de formation.
Merci, Majdi. Une dernière.
Oui, alors Gaëtan, personnellement et professionnellement, moi je développe le fait d'être créatrice et actrice de ma vie et j'aide les autres à le faire. Après, ça serait un peu compliqué à expliquer en 2 minutes. Mais moi, ce que je veux dire, effectivement, il ne faut jamais oublier l'aspect humain, puisqu'en fait, on fonctionne à l'enthousiasme et en neurosciences, on a bien découvert ça. Et l'enthousiasme, c'est en lien avec les émotions. Et en lien avec les émotions, c'est ça qui nous motive pour avancer.
Juste pour compléter ce que vous dites, je partage complètement ce que vous dites. Et la notion d'émotion, c'est quelque chose qui est intéressant dans la formation. Parce qu'il y a deux aspects qui se télescopent en ce moment. Vous avez des enseignants qui veulent qu'il y ait un silence absolu dans les classes. Et donc, vous avez le savoir qui se transmet unidirectionnel. Et vous en avez qui préfèrent que ça soit un peu plus village gaulois. Et finalement, on se rend compte que tout ce qui est capté par les élèves est capté plus facilement si on associe des émotions avec, que ce soit le rire, que ce soit le surprendre, que ce soit tout type d'émotion. On se rend compte que là, ça passe beaucoup plus. Et quand on fait un effort de mémoire, on se repère par rapport à ces critères-là pour apprivoiser le savoir.
Jean-Jacques Latouille, alors jeune retraité, qui est un état agréable. Je me suis longtemps intéressé, notamment au sein de l'IAE, à la gestion des processus d'innovation dans les systèmes éducatifs. Moi, je ferai une distinction entre ce qu'est l'éducation et ce qu'est un système éducatif. Dans les systèmes éducatifs, il me semble que l'innovation est confrontée à un paradoxe, c'est qu'un système éducatif, c'est fait pour transmettre la tradition, pérenniser la société. L'éducation peut-être plus. Ça l'a été, est-ce que ça l'est encore? Et c'est là que la question devrait être posée. Plus que par rapport au système éducatif, le système éducatif étant ou devant être vu comme une organisation qui permet ou qui ne permet pas l'innovation. Et ça, donc ça pose la question du temps, et vous avez posé la question du temps comme un temps accéléré, etc. Moi, je la poserai peut-être différemment par rapport à mon expérience africaine. D'ailleurs, je ne sais plus le nom de cet auteur qui a écrit ce bouquin remarquable, La constante tropicale, où il démontre que dans les pays entre les deux tropiques, on trouve les mêmes choses, notamment une relation au temps. Est-ce que, au-delà du terme de tradition, du concept de tradition, il n'y aurait pas à questionner l'appréhension que chacun a du temps? Quand on est dans des pays africains, on voit très vite qu'on est dans un temps cyclique, vécu comme étant un temps cyclique et non pas un temps linéaire. Et est-ce que la conception du temps comme étant cyclique n'est pas un frein ou ne serait pas un frein à l'innovation?
Alors, c'est compliqué de répondre à votre question. Non, alors, moi, j'appréhende la question du temps un peu différemment en disant que c'est aussi une question qui est liée à la confiance. Quand on met du temps court, c'est qu'on est toujours en fonctionnement de sous pression, avec une notion, et c'est malheureusement le cas en France, à la fois on a un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, et à la fois c'est un système où il faut toujours prouver qu'on n'est pas mauvais. C'est quelque chose qui passe pas sur la confiance. Hein. C'est vraiment, il faut prouver constamment. Ça, c'est problématique. Et ça conduit aussi à une autre notion qui est aussi problématique dans notre société. C'est la relation par rapport à l'échec. L'échec n'est pas vu comme un tremplin pour avancer, mais il est vu comme une rupture dans votre progression. Et à partir de là, vous êtes pointé du doigt. Alors que vous avez d'autres cultures où l'échec est vraiment vu comme un tremplin. Et à chaque fois, vous avez capitalisé des choses et ça vous permet de vous former encore plus et d'avancer. Alors ça, c'est une vraie question en France, et il faudrait la traiter dès le primaire, parce que c'est une éducation qu'on a, et je vois malheureusement les dégâts qu'on fait des fois sur les enfants avec cette notion de prouver. En plus, l'orientation, en France, on n'a pas un système qui est sélectif par le passage d'une classe à l'autre, mais finalement qui est sélectif, alors par une autre manière, c'est par l'orientation. C'est-à-dire, dès que on fait une hiérarchie entre les diplômes, malheureusement, même si ce n'est pas déclaré, et cette orientation permet une sélection progressive au cours du temps. Et ça, il faut voir comment sortir de cette situation-là.
Merci. Je vais donc appeler, merci Majdi, tu restes parmi nous, bien sûr, le débat pourra continuer entre nous, avec deux interventions maintenant, celle de Ludovic Maléco, qui est directeur du musée de Roranum, et il va nous présenter cela, et puis également François de Brabant, accompagné du photographe Frédéric Delangle. En fait, la question qu'on se pose, créativité et territoire, c'est en quoi ces lieux d'archéologie, on peut dire ça comme ça, vous nous présenterez, animent, participent de la vie du territoire. Alors, on avait proposé une petite règle, c'était de venir avec un entrepreneur, mais le temps de l'entrepreneur n'est pas forcément le temps de l'espace Manès France et de créativité et territoire. Et donc, ils ne sont pas toujours libres au moment où on souhaiterait qu'ils soient là. Mais je pense que vous allez en parler. Donc, je vous invite tous les trois à venir à la tribune et à nous présenter chacun votre expérience en la matière. Alors, je ne sais pas, peut-être Ludovic Maléco, vous commencez ?
Oui, pourquoi pas. Merci. Donc, Ludovic Maléco, je suis archéologue de formation, spécialisé dans le monde romain, directeur du musée de Roranum à Ron dans les Deux-Sèvres, et donc agent territorial de la communauté de communes de Mélois en Poitou. Je vais dire quelque chose qui résonne avec tout ce qui a été dit ce matin, notamment par M. Demoule, entre autres. J'ai aussi la chance d'être élu dans cette commune de Ron. Et s'il y a bien quelque chose qui connecte entre un directeur de musée et un élu, c'est bien, pour le coup, de faire vivre une population à travers une innovation. Un musée, c'est pas qu'une administration. Être élu, c'est pas être administrateur d'une population. C'est aussi trouver des solutions pour faire avancer un territoire. Et donc, en tant que directeur de musée, c'est ça aussi, c'est de faire avancer une situation, puisque maintenant, nous avons face à nous une population qu'on pourrait qualifier de touriste, d'une certaine manière, ou d'utilisateur du site, qui ne vient pas que pour voir des objets ou voir une explication, mais qui vient pour consommer un site, pour comprendre et s'immerger dans un site, sur un site. Je vais reprendre une phrase, ça va peut-être vous choquer un peu, c'est celle de chez McDo qui dit « Venez comme vous êtes ». Eh bien, c'est ça, en fait, le truc. C'est de voir les gens, les prendre les uns après les autres, avec leur individualité, et trouver des solutions pour faire qu'ils viennent chez nous. Et puis, pour reprendre l'adage, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais ils ne mènent pas toujours à Rome. Et même si les habitants de Rome s'appellent les Romains, nous sommes des vrais Romains. Quoi qu'il en soit, il a fallu qu'on trouve des solutions. Au bord du chantier archéologique, en marge du chantier archéologique, il a bien fallu nourrir les étudiants archéologues et toute l'équipe archéologique qui intervenait sur le site. Et donc, nous avons fait appel à un traiteur qui n'est pas là, qui ne pouvait pas être là ce matin avec moi. Le panier Poitevin qui se trouve à Coué et à Ron, justement, dans le sud, au sud d'ici. Et au départ, c'était simplement une entente. Bon, il nous faisait à manger, etc., etc. Le boulanger de la commune nous faisait aussi à manger. Et de fil en aiguille, en voulant sortir des collections, on a créé des animations X et Y. Et notamment, on s'est dit, pourquoi pas faire un groupe de reconstitution historique et de proposer des plats romains, tout bêtement. Donc on a fait des recherches, on a pris contact avec un certain nombre de spécialistes du menu à l'époque romaine, on a lu énormément de choses, et finalement on est allé voir le traiteur en question, Monsieur Chedozo, pour le site, pour ne pas le citer, et on lui a dit, voilà, on voudrait travailler avec vous, est-ce que ça vous intéresserait de mettre en avant finalement cette culture romaine, dans tous les sens du terme, puisque les habitants de Ronde s'appellent les Romains, essayer de développer une série de plats ou quelque chose un petit peu particulier. Alors oui, ça demande un peu de connaissances, mais après tout, finalement, hormis les patates et les tomates, la plupart des choses étaient connues par les Romains. Donc du coup, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose ensemble. Lui a pris la balle au bon, et on a fait une première soirée autour d'un repas romain, et en même temps, on a fait un défilé de mode avec l'évolution vestimentaire du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. Et entre chaque plat, on a montré ça. Et ça a marché. Ça a vraiment marché. Ce qui fait que du coup, notre traiteur maintenant propose systématiquement, alors ça marche souvent pour les mariages d'ailleurs, mais pas que, propose systématiquement des plats romains d'origine romaine et fait valoir le site de Roranum, donc le site gallo-romain de Roranum. Donc vous voyez comme quoi ça marche plutôt bien. Le boulanger de l'époque de Ron, lui aussi, a eu la même démarche, M. Lambert. Alors la boulangerie est désormais fermée, mais on lui a donné la recette d'un pain romain. Et puis il s'est dit, tiens, je vais essayer de la faire. Et il l'a fait. Et il venait en vendre jusqu'à Poitiers même, hein, au marché des couronneries notamment, ou même au marché Notre-Dame. Et vous connaissez l'expression, il en vendait comme des petits pains. Il en vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi bien que même les collèges et écoles du territoire, de temps en temps, faisaient aussi des repas romains par notre intervention et prenaient du pain chez ce boulanger-là. D'ailleurs, il a fait l'objet d'une couverture de Glenn Baxter dans un Actualité Poitou-Charentes il y a quelques années. Ce boulanger-là. Donc vous voyez un peu l'impact d'une structure alors archéologique au départ, certes, mais à défaut culturel et touristique, et son importance au travers du développement d'une, voire plusieurs, d'une ou plusieurs entreprises. Il faut bien penser qu'une structure culturelle sur un territoire, c'est aussi des retombées économiques. On nous dit toujours que la culture coûte cher, mais on ne nous dit jamais combien coûte le manque de culture. Une structure culturelle en Deux-Sèvres, en 2011, hein, je reprends les chiffres, 1 euro injecté dans une structure culturelle a généré 21 euros de richesse autour. Donc c'est des entreprises qui travaillent, c'est un certain nombre de gens qui, à un moment donné, se disent « Tiens, il y a des gens qui essaient de bouger, c'est pas facile, c'est loin de tout, mais on va essayer de les aider, on va essayer de bouger ensemble. » Ça, c'est ce point-là. Et enfin, pour terminer, ce témoignage-là, j'ai bien aimé tout ce qui a été dit ce matin en termes d'innovation, en termes de beaucoup de choses et d'évolution. Et je citerai juste une phrase d'Edgar Morin, qui est bien connue dans cette maison, qui dit, sous forme de rhétorique, on ne devrait pas dire quelle planète on va laisser à nos enfants, mais plutôt quels enfants on va laisser à notre planète. Voilà pour ce témoignage-là.
Merci, M. Maléco. Peut-être on enchaîne avec le deuxième, et comme ça, on pourra débattre sur les trois. Oui. À vous, M. De Brabant.
Oui, vous m'entendez ? Oui. Bonjour, donc François de Brabant, donc responsable du musée de préhistoire de Lussac-les-Châteaux. Donc récemment arrivé ici sur le territoire, j'arrive des Hauts-de-France et j'ai pris mon poste au mois de mars de cette année, succédant à Florence Bougnotto. Alors je signale un petit peu que je suis arrivé récemment parce que c'est un petit peu un impact. Pour les personnes qui éventuellement ne connaîtraient pas, jamais, le musée de préhistoire de Lussac-les-Châteaux. C'est un musée donc qui existe depuis le début des années 80, mais qui a été labellisé Musée de France en 2006 et qui a été réaménagé à la fin des années 2000. Ça a été un très gros projet mené par la municipalité, un investissement en millions d'euros, donc il y a une nécessité d'aller chercher des partenaires qui étaient accompagnés par la DRAC, puisque c'est un musée labellisé. Et qui se situe dans un pôle patrimoine, puisqu'on a mutualisé le musée de préhistoire, la médiathèque et la MJC dans un seul et même bâtiment que vous voyez en haut. Le bâtiment moderne où se trouve au premier étage le musée et au rez-de-chaussée, la salle d'exposition et la médiathèque. Et donc... dans ce musée de préhistoire, donc ce qui justifie l'existence du musée, c'est l'ensemble des sites préhistoriques qui existent sur le territoire du Lussacois, essentiellement de l'époque magdalénienne, mais on a aussi de la période néandertalienne, et donc des sites majeurs connus depuis le 19e, dont un plus particulièrement qui est fouillé en 1937, c'est la grotte de la Marche, donc avec du matériel, je dirais magdalénien, tout à fait classique, hein, matériel lithique, des pointes en silex, des outils en silex, la matière dure animale, ossements, bois de renne travaillé, mais aussi et surtout, ce qui fait vraiment le caractère exceptionnel de cette collection, plus de 1000 plaquettes en calcaire, enfin plaquettes ou plaques en calcaire, parce qu'il y en a qui tiennent dans la main, il y en a qui font plusieurs dizaines de kilos, gravées, sur lesquelles on retrouve des représentations animales, des figurations humaines, et aussi des figurations symboliques. Donc c'est vraiment exceptionnel parce que d'une part le nombre, d'autre part la qualité, le fait aussi qu'on a des représentations humaines en grand nombre, parce que au Magdalénien, comme aux périodes précédentes, on retrouve bien sûr des figurations humaines, mais généralement plutôt stéréotypées. Donc là, on a pour le début vraiment la représentation de personnes, d'individus en particulier. Donc ces collections exceptionnelles, et je me rends compte que j'ai fait une faute en tapant un peu trop vite le nom du découvreur, M. Wolf, est étudié par des chercheurs depuis donc des décennies, depuis les années 30. Hein. Celui qui a vraiment fait une grande publication, c'est Léon Pallès, ou Pal, je ne sais toujours pas comment on prononce son nom, dans les années 60-76, publié, et puis d'autres personnes qui ont continué à étudier ces collections donc depuis des décennies. Jean Hervault, Nicolas Mélard, pour les citer. Cependant, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour donner un petit aperçu. Alors là, on comprend bien. Seulement ça, c'est plutôt l'exception. Généralement, c'est plutôt ceci. Alors là, la photo peut-être... en fait, non. Ça, même quand vous êtes devant la vitrine avec cette plaquette gravée, vous avez aussi cette difficulté de voir cette gravure, car l'objet qui nous apparaît, c'est une plaquette qui a été lessivée de sa couche d'ocre dont elle était enduite. Et je donne toujours le principe du télécran. En fait, c'est on enlevait de la matière pour graver à la pointe de silex, retrouver une ligne claire blanche sur un fond d'ocre. Seulement 14 000 ans après, la couche d'ocre, bien sûr, a été lessivée. Alors, à gauche, on a des pierres très bien gravées, mais c'est plutôt l'exception. La majorité des cas, c'est plutôt celui-là. Ce qui explique pourquoi, dans notre présentation permanente, on accompagne la présentation de ces plaquettes pour aider le visiteur à comprendre le dessin, comprendre la gravure d'un dessin, d'une interprétation fait par des scientifiques. Alors, voilà un petit peu la difficulté, parce que bon, là, il y a eu un très gros effort pour restituer au public in situ dans le musée cette collection qui est connue depuis des dizaines d'années par des scientifiques et spécialistes, mais finalement bien peu par le grand public, et restait à faire donc un travail d'accompagnement hors les murs. Et la question de base, c'est bien sûr une monographie, un catalogue pour permettre aux gens de repartir quand ils ont visité le musée avec un beau livre qui permet de montrer, de garder un souvenir précis de ces gravures, ou pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer de la voir, avant même de parler d'une diffusion sur Internet, par exemple. Mais cela représente quand même une certaine difficulté. Ah, ça bloque un petit peu. Donc, Léon Pal avait fait effectivement une très grosse monographie en 76, qui était une publication scientifique qui n'est plus rééditée, qui est un très beau travail, mais qui ne s'adresse pas au grand public. Hein, c'est en 4 volumes, il faut s'accrocher. Et de toute façon, même si quelqu'un voulait l'acheter, il est maintenant plus réédité, introuvable. La société d'édition Eofris s'est orientée vers toute autre chose et ne l'a pas en archive. Donc il fallait réfléchir à quelque chose pour une publication grand public de préférence, récente, c'était la logique. Il y a déjà un certain nombre d'articles scientifiques récents qui ont été publiés, mais pour le grand public, c'est quand même l'idée, on n'avait rien. Alors, pour le musée, je dirais, les musées, classiquement, publient aussi leurs ouvrages, publient leurs collections, pardon, dans des ouvrages comme des monographies ou des catalogues. Mais nous concernant, on a quelques petites difficultés. En l'occurrence, l'équipe du musée, c'est, je dis, 2,25 agents, c'est-à-dire qu'on a 2 agents à temps plein et un agent d'accueil pendant la période estivale. On a bien sûr des matériels et des compétences techniques qui sont plutôt limitées. La difficulté de ces plaquettes pour les valoriser, c'est qu'il faut savoir bien, il faut avoir un savoir-faire pour le restituer. Parce que si une lame de silex, si un bois de cervidés, quelqu'un qui a suivi une bonne formation dans sa formation d'archéologue comme moi peut s'en sortir, quand on se rencontre confronté à des plaquettes gravées comme ça qui sont si difficiles à valoriser, là on atteint un peu nos limites. Et donc effectivement là on se dit qu'il faut aller chercher un prestataire extérieur. Bon, seulement le prestataire extérieur, par définition, ça veut dire un budget. Alors, je mets en opposition avec le budget de la Savline, le pôle culturel, c'est le budget d'une petite collectivité, hein, Lussac-les-Châteaux, c'est moins de 3 000 habitants. On dit que c'est certainement des très bonnes idées, mais qu'il faut trouver des solutions. Et à ce moment-là, je dirais, c'est la rencontre qui fait l'occasion. Hein, c'est que à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit qu'il connaît les collections depuis longtemps, qu'il est très intéressé par ces collections, qu'il est aussi un peu, déçu de voir que ce patrimoine n'est pas valorisé. Bon, il comprend que le musée a des moyens limités. Et c'est donc Monsieur Delangle, voilà, qui est à ma droite, qui, à peine au moment où je prenais mes fonctions, c'était un hasard, m'a sollicité. Moi, j'ai tout de suite vu, bien sûr, l'opportunité, parce que, bien entendu, il a les compétences que nous n'avons pas. Il a la volonté de mener un projet dans lequel nous l'accompagnons, mais il est plus l'initiateur à l'origine. Enfin, moi, c'était plus l'attente en tant que représentant du musée. Et c'est ainsi que se met en place ce projet de monographie où on a quelqu'un qui est un entrepreneur privé, qui a mené tout un tas de projets avec une véritable expérience. Je vous ai mis juste un aperçu de sa bibliographie. C'est beaucoup plus complet sur le site en ligne, notamment son site en ligne, et qui va donc se confronter à ce problème parce que c'est un avantage pour nous et pour lui c'est aussi un nouveau défi parce qu'il a une grande expérience de la valorisation du patrimoine, notamment patrimoine architectural, mais sur des collections archéologiques c'était sa première expérience. Et là, je vais lui laisser maintenant prendre un petit peu la parole pour discuter avant de lancer la vidéo. Je vais faire une petite introduction, juste de palimpseste.
Alors bonjour, moi je ne suis pas du tout issu du monde de l'archéologie. Je vis à Paris, je suis photographe, mais je suis originaire de Caux, un petit village qui est à 10 km de Lussac. Et depuis que je suis petit, j'entends parler de cette grotte qui reste pour moi très mystérieuse. Et avec le temps, je m'y suis intéressé et j'ai été extrêmement surpris par le caractère exceptionnel de ces gravures et à quel point elles sont inconnues. Pour exemple, je me suis passionné pour la découverte pendant la découverte de la grotte Chauvet et je vais faire juste un comparatif. Chauvet, c'est une grotte exceptionnelle. Vous enlevez les dessins, elle est exceptionnelle en soi, par sa forme, ses arrondis. La grotte de la Marche, c'est un simple campement d'hiver qui est bien exposé, il est au sud. La grotte en soi n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien sur les murs. Le site est assez joli, c'est au bord de la rivière, mais ça n'a rien à voir avec Vallon-Pont d'Arc. Les dessins de la grotte Chauvet sont impressionnants. Ils ont été immédiatement classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les gravures de la Marche sont illisibles, mais pour la plupart, les dessins superposent, sont mélangés à des traits. Il faut vraiment un guide pour pouvoir les déchiffrer. C'est le travail des archéologues. Chauvet, il y a une réplique qui a été faite avec un beau musée. À Lussac, il y a un très beau musée. Mais les pièces sont réparties dans 4 musées en France. Donc tout est éparpillé. Chauvet était découvert par des spécialistes, c'est-à-dire que quand ils sont rentrés dans la grotte, ils ont tout de suite protégé le site. La Marche, ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'elle est ouverte aux quatre vents, que les premières fouilles n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Ça a posé quand même pas mal de problèmes. Mais je vous ai fait un descriptif un peu catastrophique, mais il y a quand même de l'espoir. Je pense qu'on peut rendre visible ce patrimoine. Je vous donne juste je vous cite juste cette petite anecdote. Je suis allé cet été visiter la grotte d'Altamira. Il y a un musée qui est à côté. Vous avez une présentation vidéo de toutes les peintures pariétales qu'on peut trouver. Puis il y a un chapitre sur les représentations humaines. Je dis chouette, je vais voir la Marche. Non, rien du tout. C'est-à-dire que on montre des exemples dans le monde de représentations humaines et rien sur la Marche. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Il faut trouver un moyen de présenter au grand public ce patrimoine exceptionnel. Et donc l'idée du livre m'est venue. je pense que c'est le seul moyen de réunir les pièces majeures, c'est-à-dire les représentations humaines, et aussi les pièces, les dessins d'animaux. Mais il faut que je réussisse dans ce livre à donner autant d'émotions sur, en voyant ces pierres, il faut qu'on ait autant d'émotions à voir ces pierres qu'à voir des peintures pariétales. Donc j'ai fait un petit film qui va présenter la manière dont je vais procéder. Donc là, vous avez une pierre brute. Comme vous le voyez, on ne voit rien. Alors avec un éclairage, on met un éclairage rasant et on voit le relief de la pierre. Par contre, il faut tourner autour de cette pierre. Ça, c'est la première phase. Je fais des photos avec des éclairages différents, avec le même point de vue. Je ne bouge pas la pierre. Ensuite, sur ordinateur, je vais prendre les parties de la pierre qui m'intéressent le plus et qui font ressortir au mieux le relief de la pierre. Donc là, on commence à avoir une pierre qui ne ressemble, commence à avoir un peu de lisibilité. Donc une fois que l'assemblage est terminé, on va pouvoir procéder au relevé, qui va être beaucoup plus facile. C'est au relevé des gravures. Donc sur ordinateur, en agrandissant, je reproduis tous les traits qui sont sur la pierre, de manière tout à fait mécanique. Voilà, ensuite je superpose le relevé sur la pierre, ce qui permet de voir le relief, et le lien entre le relief et le relevé. Voilà un exemple de relevé à peu près illisible. Ça, c'est moi qui ai joué à trouver des représentations. Ce que pourra faire aussi le lecteur. Bien sûr, le travail de recherche des dessins, c'est pas moi de le faire, c'est aux archéologues. Voilà le relevé brut. On est à moins 15 000 ans. Et voici maintenant quelques relevés qui ont été faits par différents archéologues sur les pierres de la grotte de la Marche. On est à la même période que Lascaux. Un éléphant de mer à Lussac. Un nouveau-né. Ah, vous avez le relevé et le dessin dessus. Ça fait 1 ou 2 centimètres. Pour voir la maîtrise de la gravure. Voilà, ça c'est pour que vous ayez une idée du patrimoine exceptionnel de la grotte de la Marche. Et moi, j'ai fait plusieurs livres sur d'autres sujets et j'ai un éditeur, mon éditeur qui a édité mon dernier livre, qui est passionné de la préhistoire, d'art pariétal. Il s'appelle Xavier Barral et il se trouve que c'est l'un des meilleurs éditeurs de livres photos. Donc, je lui ai tout de suite parlé du projet. Il ne connaissait pas, évidemment, la grotte de la Marche. Je l'ai emmené à Lussac parce qu'il ne croyait pas ce que je lui montrais. Et là, bon, il a fini par y croire. Et donc, nous avons réfléchi à la fabrication de ce livre. On ne peut pas faire un livre, il faut qu'il soit aussi exceptionnel. Donc, on va faire un système de... Donc, je vais travailler les photos et on va faire un système de calque où on voit apparaître petit à petit. Il y a le relevé, ensuite les dessins qui apparaissent comme ça. Donc, les systèmes de calque, on le fait... Si on le fait de manière élégante, on le fait sur du papier japonais le plus fin possible. Évidemment, c'est un coût monstrueux. Et voilà, ça coûte très cher, il faut qu'on trouve de l'argent. Non seulement pour le livre, mais aussi pour la campagne photo. Alors, la campagne photo, en soi, ce n'est pas le plus important, c'est la post-production qui est le plus long. Donc moi, je fais ça parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mais je ne peux pas le faire non plus. Ça va demander un budget, voilà. Une fois que ce livre sera produit, il y a aussi la possibilité après de faire des expositions, parce qu'on aura tout le patrimoine qui sera sur ordinateur. On pourra faire des tirages. Les relevés que je vais les faire de manière tout à fait mécanique, donc ça peut aussi servir à des chercheurs. Je peux les faire, je peux mettre différents niveaux, c'est-à-dire que je peux faire le relevé en faisant un calque avec les traits fins, un calque avec les traits moyens, un calque avec les gros traits, un calque avec les traits qui font plusieurs traits sur un outil qui fait plusieurs traits en même temps. Donc je peux passer un temps plus ou moins long sur les relevés, et ça dépendra de ce que je pourrais consacrer à ce projet. Donc à la fois ça sert aux chercheurs, à la fois ça va être visible, parce qu'on peut le faire sous forme de vidéo aussi, d'installation vidéo, comme l'a fait Raphaël Dalla Porta sur la grotte Chauvet. Voilà, donc je vous ai présenté le projet qui est en cours et voilà.
Merci beaucoup pour ces deux témoignages, mais je pense qu'on peut peut-être répondre à des questions, bien sûr, mais aussi peut-être élargir au thème archéologie et territoire. Et je sais que parmi nous, il y a un représentant de l'Association nationale de l'archéologie des territoires. Je ne sais pas s'il veut dire un mot là-dessus, sur cette association, sur ce lien entre archéologie et territoire.
Merci, bonjour. Oui, je suis personnellement responsable du service de l'archéologie du département de l'Indre-et-Loire, donc pas très loin, mais aussi membre du conseil d'administration de l'Association nationale pour l'archéologie territoriale, qui représente, enfin qui fédère un très grand nombre de services de collectivités territoriales dans des départements et des communes ou des communautés de communes. L'archéologie n'est pas une compétence obligatoire des collectivités. À l'heure où on redéfinit les compétences des collectivités, là on est dans le domaine de la culture, et comme vous le savez, les collectivités, les élus se sont battus pour garder la compétence générale en matière de culture, autrement dit qu'il n'y ait pas un monopole de tel ou tel niveau de collectivité pour la culture, et donc en l'occurrence aussi pour l'archéologie. Donc c'est un choix politique des élus qui a plusieurs origines. C'est un mouvement qui est né avant même la décentralisation, qui s'est naturellement amplifié avec les lois de décentralisation, qui a tendance à stagner à l'heure actuelle, je ne sais pas si on m'entend vraiment, si, qui a tendance à stagner à l'heure actuelle compte tenu des difficultés budgétaires des collectivités, mais aussi des difficultés de positionnement. Hein. Bon, la loi NOTRe, etc., je ne vous refais pas le film, vous connaissez tous ça. Mais l'objectif, il y a deux objectifs principaux. L'un est lié à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la vie des territoires, à la vie culturelle des territoires, à la connaissance de l'identité des territoires, ce qui est notamment sensible pour les villes qui travaillent sur leur propre passé. Mais il y a aussi évidemment une dimension économique qui prend deux aspects. L'un, c'est celui que vous avez évoqué, c'est une dimension essentiellement touristique. En l'occurrence, par exemple, en Indre-et-Loire, le conseil départemental possède des châteaux qui sont mis en tourisme, comme on dit. Et une partie de notre travail, c'est d'alimenter la connaissance qu'on a de ces châteaux de façon à avoir un discours pour les visiteurs qui soit à jour, intéressant, et on travaille beaucoup. Alors là, on pourrait parler d'autres innovations, mais on travaille évidemment beaucoup avec le numérique, qui est un grand thème actuellement. L'autre dimension économique est de l'ordre de l'aménagement, puisque vous savez qu'en France, on a un dispositif législatif relativement bien fichu qui permet de prendre en compte la dimension patrimoniale et archéologique dans les projets d'aménagement. Et donc les élus locaux sont eux-mêmes des aménageurs ou ont à cœur d'accompagner les projets d'aménagement structurant sur leur territoire et donc de faciliter l'articulation entre l'archéologie et l'aménagement du territoire. Et donc, dans certains cas, ils ont souhaité investir dans des équipes qui viennent en parallèle avec d'autres structures, et notamment la structure de l'État, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc, on est au cœur de tout. C'est pour ça que je suis là, de tout ce qui vient d'être dit. On est à la fois du côté de la tradition, d'une certaine manière, avec ce discours qu'on entend et dans lequel on veut parfois nous reléguer du passé, de l'identité. On me téléphone parfois en me disant « Vous êtes archéologue, donc vous devez être contre la déviation de tel ou tel. » Oui, peut-être à titre de citoyen, mais pas en tout cas à titre d'archéologue. Je dis souvent que les archéologues n'étudient pas le passé, mais le présent d'autrefois, voire le progrès de l'humanité, terme qu'il faut manier avec précaution, comme on l'a évidemment entendu ce matin. Les archéologues, ils voient plutôt la technologie que le mental, et les indices du bonheur déjà difficiles à manipuler pour aujourd'hui le sont certainement encore plus pour les temps d'autrefois. Enfin voilà, j'ai...
Merci de cet apport. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des interventions au sujet de cette matinée ?
Je peux faire une petite remarque, effectivement, par rapport à ce que vous avez dit. Il y a un côté très schizophrène, en fait, chez les élus, en général, qui veulent absolument qu'une structure culturelle rapporte, mais qui ne veulent pas se séparer de la compétence et la transmettre ou pas au degré supérieur, donc d'une commune à une communauté de communes ou à un département. Et du coup, on est sur une ambivalence en disant, bah oui, mais là, on ne peut pas mettre d'argent, mais on voudrait que ça rapporte. Enfin, il y a quand même des difficultés à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un site comme celui que je dirige, à Aron, est passé sous la compétence tourisme, puisque la compétence tourisme est une compétence obligatoire mise dans la compétence économique de la communauté de communes. Donc, il y a un jeu assez savant dans cette histoire-là. De savoir qu'est-ce qu'on fait de cette compétence culturelle ou pas, et est-ce qu'on relègue un site sur un simple apport touristique, est-ce que c'est un site archéologique, si c'est un site archéologique, comment est-ce qu'on le met en valeur et comment est-ce qu'on l'entretient derrière, parce qu'évidemment il va y avoir des dégradations, ou comment est-ce qu'on le protège, quel est l'apport de des nouvelles technologies, alors même si maintenant les nouvelles technologies ça fait 20 ans qu'on en parle, de la réalité augmentée. On parlait tout à l'heure des lunettes et il y a des outils maintenant où vous pouvez aller sur un site et vous voyez des ruines, vous mettez les lunettes devant vous et puis vous voyez le site reconstitué. Donc il y a quand même un certain nombre de choses et quelle est cette part-là à aborder. Et ça, c'est vraiment une ambivalence chez les élus qui est pas forcément facile, surtout quand on voit des gens. Alors quand on est dans une ville, à peu près, ça va à peu près bien. Lorsqu'on s'éloigne à plus de 30 km d'une ville, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce qu'on est face à des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Ou alors, quand on en parle d'archéologie, j'ai bien aimé l'image de Indiana Jones et Lara Croft tout à l'heure, parce qu'on est un peu dans ce domaine-là. Les gens ne nous comprennent pas. Moi, je le vois tous les jours. Hein. Alors maintenant, ça va mieux.
Pardon ? Parfois même au sein même de la collectivité.
Parfois même au sein même de la collectivité, oui.
Je vais me faire une petite anecdote. J'ai travaillé pour une collectivité... dans le Nord, dans le Louisiane, un service d'archéo préventive. On est mis sur le site internet, on est très content. Et les informaticiens de la collectivité, l'icône qu'ils nous ont mis, c'était les pyramides de Gizeh. Voilà. Et on a essayé, voilà, et c'était à l'intérieur de la structure. On a dit, mais moi, j'ai fait la remarque aux collègues, je ne savais pas qu'on fouillait tant au sud, mais bon, et on n'a jamais pu faire en sorte que les informaticiens nous changent cette icône. Hein. Quand on allait sur le site, il fallait. Alors peut-être que c'était il y a des années, ça a peut-être changé depuis, mais.
Et c'est vrai que cette image, la communication sur ce qu'on fait et les implications. Certes, mais c'est un symbole. Mais derrière, je pense que l'idée associée, c'est qu'on voilà, on fouille des choses prestigieuses, on fouille des choses en dur, alors que nous, 90% de notre activité, c'était de la fouille en négatif. C'est du rural, c'est des cabanes mérovingiennes, c'est rien de. Voilà. Et donc, quand les gens viennent sur le terrain, c'est sûr qu'ils sont. Ils sont où les pyramides ?
C'est un vrai impact. Au-delà, pardon.
Il y a une question oui. Par ici.
Oui, bonjour, c'est plus des remarques. Bonjour, Véronique Kleiner. Je voulais faire des remarques avec deux casquettes. La première casquette, c'est celle d'une propriétaire privée d'un site classé monument historique médiéval, situé à 20 km de Châtellerault, donc d'une ville, donc en pleine zone rurale. Et c'était juste pour témoigner de la difficulté en tant que privé vis-à-vis des élus de la commune et des communes environnantes, pour leur faire accepter l'idée, évidemment, que le patrimoine, c'est du tourisme, que le tourisme, c'est de l'économie, et que de faire connaître du patrimoine et le valoriser, c'est un plus pour un territoire. On a sur cette même commune un site préhistorique qui est très connu à Paris, c'est le site de Fontmort, qui est un site de pierre, de jaspe taillé néandertalien, mais sur la commune, personne ne le connaît. Par contre, vous allez à Saint-Germain-en-Laye ou au Musée de l'Homme, vous avez des pierres de Fontmort. Donc ça, c'est la première casquette. La deuxième casquette, c'est que je suis aussi auteure et réalisatrice de films. Et depuis 3-4 ans, j'ai le projet de faire un film sur les pierres gravées de la Marche. Donc j'ai écrit, j'ai rencontré les enfants d'Éon Pâle, de Stéphane Wolf, etc. Je travaille avec Nicolas Mellard. Je me suis associée avec une boîte de production parisienne assez connue qui s'appelle Bonne Pioche, enthousiasmée par les pierres de la Marche. Et là, pour l'instant, on s'est mis tous en sommeil parce que je peux vous faire part des retours. Alors, le retour d'Arte, avec qui je travaille régulièrement, c'est... C'est pas spectaculaire, ton truc. Alors que nous, avec After Effects, avec de la post-production, on peut très bien rendre visible, s'il le faut rapidement, les dessins représentés sur les pierres. Donc, c'est pas aussi beau qu'une pyramide. Ça, c'est clair que la pyramide, c'est beaucoup mieux, et qu'une pierre, même si ce sont les plus anciennes figurations humaines connues à ce jour, réalistes, là, ça passe pas. Ensuite, France 3, parce qu'on s'est dit, on va se rabattre de Arte, qui est le must, la Rolls-Royce, à un France 3. Donc, France 3, on commence par France 3 local. Donc là, on a mal joué, parce que France 3, Poitou-Charentes, juste avec la fusion avec la grande région, avait encore un peu d'autonomie, nous avait dit oui, mais attention, dans quelques mois, on va peut-être devenir France 3 Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qui est arrivé. Et donc, France 3 Nouvelle-Aquitaine nous a dit, mais écoutez, nous, on a un patrimoine en Dordogne tellement bien que vos pierres gravées de la Marche, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Et France 5, pour l'instant, on a laissé tomber. Pourquoi ? Parce que, eux, leur seule condition, c'est vraiment de fictionnaliser le film. C'est-à-dire, avant tout, de prendre des comédiens magdaléniens en train de se dessiner, etc. Donc, c'est pas vraiment non plus ma démarche. Voilà. Sachant que ce projet, au départ, c'est avec Marc Azéma, que vous connaissez aussi, que je l'ai commencé. Voilà, donc bon courage. Je pense qu'un livre sera beaucoup plus facile à éditer, déjà, et ça permettra peut-être de faire connaître encore plus ce patrimoine.
Merci pour ce témoignage. Ce que je vous propose, puisque on arrive à l'heure, midi, il y a une séance de dédicace avec M. Demoule donc, et la librairie Gibert qui est là. En plus, vous avez tout au long notre service documentation à l'espace Manessence qui a sorti un certain nombre de livres, a fait l'acquisition d'un certain nombre de livres liés au thème de créativité territoire. Donc je vous incite à regarder. Et avant, une petite information pour mon collègue Pierre Perrault qui est ici, qui vous propose à 16h30 tout à l'heure, une balade créative dans Poitiers. Il faut évidemment signaler que vous êtes intéressé. Et ça se termine par une petite dégustation. Mais il faut aussi s'inscrire à cette dégustation. Alors, pour les intervenants, il faut quand même signaler s'ils sont là ce soir. Je pense à M. Brouchet, par exemple, qui est devant moi, qui répond, qui opine du chef, donc je pense qu'il est là. Et, mais aussi ceux qui ne sont pas intervenants et qui veulent participer à cette aventure de dérive urbaine, comme dirait Debord. Voilà, donc c'est Pierre Perrault qui est le référent pour cette affaire.
Oui, la nécessité, c'est de réserver les tables tout de suite. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se sont inscrites déjà à la balade dans le site internet pour venir à la journée. Donc je voudrais savoir si ces personnes souhaitent venir aussi à l'apéritif gourmand à la fin. C'est impératif qu'elle puisse s'inscrire. Et le prix est de 20 euros. Alors ce prix n'intègre pas seulement les produits qu'ils vous proposent, qui sont des produits, j'allais dire, à la fois cuisinés et à la fois locavores, c'est-à-dire fournis par des gens du coin et dans un mode de mise à disposition des différents restaurés, voilà, un petit peu nouveau. Il y a un fromager qui nous fait faire une dégustation de fromage, et donc ce prix inscrit aussi la prestation d'animation et de découverte des aliments qu'il nous propose. Donc les 20 euros, si vous voulez, il y a à peu près 12-13 euros de matière, et puis il y a 7-8 euros de prestation par personne des deux personnes ou des trois personnes qui nous feront découvrir et qui nous commenteront et qui nous animeront l'apéritif gourmand que nous faisons ensemble. Donc on me dit que c'est un petit peu cher, mais voilà, je voulais expliquer que ce prix, il est pas, voilà, c'est un prix qui vaut aussi par la présence des gens qui vont nous aider à découvrir, à comprendre ce qu'ils nous donnaient.
Le référent, c'est Pierre, et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à aller découvrir peut-être les ouvrages.
Donc vraiment, je recommande et la balade et la suite de la balade.
Et donc, il y a un déjeuner ensuite qui se situe en haut, mais on n'a pas avant midi et demi, donc vous avez le temps d'échanger aussi entre vous. Et après, on reprend à... Que je ne dise pas de bêtises. Voilà, on reprend à 14h ici avec Ami Frazier qui est parmi nous déjà arrivé.